Bonjour et bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Aujourd'hui, mon invité, c'est Gabriel Gourovitch de Growthmakers.fr, qui est le présentateur de deux podcasts. Le podcast éponyme Growthmakers, qui interview des start-upers pour comprendre les stratégies marketing des plus belles startups, ça vient de leur site, et le podcast Dans l'arène, pareil, le slogan sur le site, c'est une vente, c'est 20% d'art et 80% de science, qui est un podcast qui parle du processus commercial, encore une fois, inspiré du milieu des startups. Gabriel, c'est quelqu'un qui a un parcours entre le freelancing, la croissance dans le milieu de la startup et aujourd'hui à la vente de formation et la création de contenu, donc il est un peu à l'intersection de différents univers qui nous intéressent et moi, il me permet d'apprendre sur cet univers que je connais un peu moins bien, où je suis un peu moins actif, qui est l'écosystème startup. Avant de rentrer dans l'épisode, j'ai une petite annonce. L'épisode de la semaine prochaine sera un peu spécial parce que je vais faire une FAQ où je serai tout seul et je répondrai à vos questions. C'est quelque chose que je n'ai pas fait depuis un bon moment, mais j'essaie de le ramener de temps en temps. Si vous avez une question à me poser, vous pouvez m'envoyer un email à faq@marketingmania.fr en posant votre question dans l'email ou, et c'est mieux, en attachant un fichier son de moins de une minute avec votre question. Et je trierai toutes vos questions. Si vous avez déjà posé vos questions dans le passé pour une autre FAQ, vous avez le droit de la renvoyer pour qu'elle soit soumise à la FAQ qui sera publiée la semaine prochaine, mardi prochain. Sur ce, sans plus de transition, je vous laisse écouter ma conversation avec Gabriel. Premier sujet dont je veux parler avec toi, c'est vraiment la question de la cible. Aujourd'hui, tu fais tes podcasts, tu as des formations. On peut commencer par les formations pour simplifier. Qui est la cible principale de ces formations ?
La cible principale, et c'est peut-être du coup plus intéressant de commencer par le podcast, parce qu'en fait, les formations découlent du podcast. La cible des formations, ça va être aujourd'hui 80% à 70% de start-up, 20% de PME avec un business model un peu plus traditionnel qui tend à se digitaliser et 10% de consultants de freelance à peu près. L'année dernière, enfin depuis 2 ans, on a dû former 200 boîtes. Tu vois, je parle de boîtes et pas de personnes parce que on fait des deals directement avec les entreprises et en fait ça découle du podcast. Alors, le podcast, pour ceux qui ne connaissent pas, s'appelle Growthmakers. Je vais interviewer chaque semaine des directeurs marketing, des head of growth, de startups qui sont en train d'accélérer pour qu'ils expliquent leur stratégie, leurs méthodes, leurs outils, comment est-ce qu'ils recrutent, etc., etc., afin qu'on puisse s'en inspirer et les répliquer dans sa boîte. Au niveau donc, de l'audience qu'on a lancée il y a 3 ans, c'était tout petit. Ça reste très niché quand même comme contenu. Et quand on a lancé, on a eu directement un petit peu de traction. On se doutait que ça manquait pour les start-upers au début, surtout que les start-upers ont plutôt tendance, comme les entrepreneurs, à être early adopters de podcasts. Aujourd'hui, c'est de plus en plus écouté, donc il y a de plus en plus de personnes qui viennent du monde extérieur des start-ups qui écoutent. Mais avec tout simplement une proposition de valeur simple, c'est qu'est-ce qui se passe une fois que tu as des clients? Comment est-ce que tu fais pour passer à l'étape numéro 2? Donc, à l'époque, tu as beaucoup de contenu, notamment par The Family, notamment par des incubateurs qui expliquent comment est-ce que tu lances une startup, fake it until make it, 0 à 1, etc. etc. Mais en fait, il n'y avait rien qui expliquait qu'est-ce qui se passe une fois que tu as quelques clients, un produit qui commence à fonctionner. Comment est-ce que tu fais pour passer à l'étape next step, en fait, tout simplement.
Toi, c'est quelque chose que tu avais déjà vu, tu avais déjà été head of growth, et ensuite tu t'es dit, je vais faire des interviews, je vais trouver des gens qui sont dedans, des gens qui sont pas forcément, qui créent pas de contenu, par exemple. Tu vas prendre des gens qui sont qui bossent dans des boîtes et donc, du coup, qui sont pas aussi visibles, pas aussi médiatiques, les faire venir, les faire raconter leur histoire. Et en final, j'imagine que c'est des gens, ils ont pas reçu tant de demandes d'interview que ça et sont contents de venir raconter un peu leur histoire.
Ouais, exactement. Je pense que c'est la thèse du podcast. C'est qu'aussi, je voulais prendre à contre-pied quelque chose qui m'a toujours paru aberrant durant des études, durant d'aller à la fac, d'aller en école. En fait, t'as plein de gens qui te racontent des trucs, ce qu'on appelle les profs, mais qui l'ont jamais fait. Donc moi, quand t'arrives en cours et qu'on te demande de faire le cas Bonne Maman, c'est-à-dire que tu dois faire une étude de cas marketing sur Bonne Maman, en fait, c'est complètement aberrant. On te demande de faire des espèces de matrices, de porteurs, de je ne sais pas quoi. Et en fait, tu feras jamais ça de ta vie. Le business, c'est pas ça. 80% de l'économie.
Tu le feras si tu vas aller bosser chez McKinsey.
Exactement, exactement. Et ça, McKinsey, c'est pas 80% de l'économie française, c'est pas 80% de l'économie mondiale. Aujourd'hui, c'est les PME, c'est des startups, c'est des entrepreneurs, c'est des boîtes entre 0 et 15 personnes. Et eux, ils ont pas le temps de faire des matrices de porteurs. La question, c'est qu'est-ce que tu fais pragmatiquement, concrètement pour avancer demain? Et en fait, ça m'a toujours paru mais aberrant. Et partant de ce constat-là, je me dis, bah, pour une fois, les startups, je vais aller demander à des gens qui l'ont fait. Donc en fait, on va prendre la légitimité d'abord, des gens qui l'ont fait, comme tu dis, qui sont plutôt dans l'ombre, et on va essayer de leur demander concrètement, est-ce qu'ils veulent bien partager leurs chiffres, leurs méthodes, et puis on va voir ce qui se passe.
Donc ça m'intéresse juste de creuser là-dessus, parce que c'est quoi la difficulté pour toi aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui est directeur marketing d'une startup bien connue? Quelle est la difficulté d'avoir cette personne sur ton podcast aujourd'hui? Un nom, tu vois, une grosse startup que tout le monde connaît.
Aujourd'hui, zéro. Ça peut être une grosse startup, ça peut être... nous, c'est tout en français. Hein. C'est aussi le concept, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de talents français. Il y a une scène startup forte en France, mais il y a aussi beaucoup de talents qui sont exportés. Notamment, j'ai eu le Head of Growth de chez Uber, qui était français à l'époque. Donc, il y a plein de grosses boîtes qui, en fait, ont des français, des talents francophones en interne, qui peuvent expliquer des choses. Ce qui est intéressant avec le mouvement startup, c'est qu'ils vont être prêts à beaucoup à être très transparents. Parce que vu qu'ils se battent dans un monde global, on imagine bien que 50, 100 personnes dans une boîte qui vont se battre contre des mastodontes, 2000, 10 000 personnes, ils n'ont rien à perdre. Donc, ils vont être super transparents sur leur méthode, sur leur stratégie et sur les résultats. Comment aujourd'hui, quelle est la difficulté d'aller trouver des directeurs marketing? Bah, zéro. Ça vient même plutôt en inbound. Donc, on vient me demander. C'est à l'époque où c'était un tout petit peu plus complexe.
C'était plus dur quand tu commençais?
C'était beaucoup plus dur, il faut, bah, parce que encore une fois, eux, leur seule question, c'est OK, mais qu'est-ce que ça m'apporte? C'est quoi le ROI de passer chez toi? Et tout le monde réfléchit comme ça.
Aujourd'hui, ça rapporte quoi?
Notoriété, visibilité, des leads, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, on fait, ça va être petit, on fait à peu près entre 50 et 60 000 écoutes par mois. Sauf que c'est un marché extrêmement qualifié, c'est un marché extrêmement niché, où tu as tout à gagner si tu passes. En fait, c'est de la marque employeur, ça, tu fais du recrutement, ce qui est hyper dur en startup, de recruter des talents. Tu peux avoir des leads, c'est-à-dire des prospects qui viennent chez toi sur des paniers moyens assez élevés. Nous, on vend les paniers moyens, par exemple, pour Salesforce, ça peut aller entre 10 000 et 30 000 euros par an. Donc, on imagine bien en fait qu'il y a une valeur énorme avec une toute petite base.
Donc, ça m'intéresse de comprendre le cheminement qui t'a amené à choisir cette cible, parce que l'erreur numéro un que font les gens, ils vont lancer un podcast et ça va être pour les infopreneurs, ça va être pour les gens qui ont envie de monter leur passion, qui ont envie d'être nomades digitaux. Tout le monde fait le même contenu pour la même cible. Et ça m'a toujours marqué la quasi-absence de contenu pour les autres types de boîtes, les autres types d'entreprises. Il faut pas abuser quand même, les infopreneurs, c'est quand même une petite fraction minuscule de l'économie, même sur le web. Et donc, il y a beaucoup d'argent dans l'écosystème startup, il y a pas mal de gens qui ont levé de l'argent, il y a des grosses boîtes. C'est clairement un bon créneau. Il n'y a clairement pas tant de gens que ça qui se sont positionnés dessus. Qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es dit « Ok, ça va être la startup, je vais sacrifier peut-être l'audience mainstream parce que je ne vais pas avoir 50 000 débutants qui vont m'écouter, mais je vais avoir cette audience. » Qu'est-ce qui a fait que toi, tu es arrivé dessus et comment est-ce que tu as compris vraiment ce qu'il fallait faire sur cette audience-là?
C'est une bonne question. C'est toujours la question de la pertinence, enfin de la valeur d'un marché versus le volume. Si on fait du B2C, je pense que c'est la grosse différence aussi avec d'autres podcasts ou avec d'autres formations, c'est que de l'infopreneur, on peut appeler ça presque du B2C, c'est du business to consumer qui va être quand même business, mais ça reste beaucoup de volume. Quand on fait du B2B, c'est tout petit, ça reste des volumes beaucoup, beaucoup plus restreints. Il suffit de regarder des médias business. On parle de Marketing Mag, e-marketing.fr. En fait, les plus gros groupes médias business actuels en France, il y a peu de monde qui les connaissent, certains. Et pourtant, ils génèrent pas mal de cash. Comment est-ce que je me suis dit d'aller là-dessus? Je pense que c'était par pragmatisme. Juste, j'ai continué à faire ce qui me plaisait. Des interviews, je vois ce qui commence à fonctionner. Et en fait, mis bout à bout dans l'aventure, tu te rends compte que finalement, les B2B sont de plus en plus intéressés. Ils sont capables d'aller sponsoriser des podcasts. Aujourd'hui, on est sponsorisé par Intercom sur Growth Makers et sur le deuxième podcast qu'on produit qui s'appelle Dans l'arène pour les commerciaux, on est sponsorisé par Salesforce. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a quelque chose. Tu sens des micro-signaux marché. Donc je pense qu'on a juste continué puis on allait voir ce qui s'est passé. Enfin, c'est vraiment approche très agile.
Parlons un peu de la manière dont la formation fonctionne. Est-ce que c'est une formation en ligne comme n'importe quelle formation où je peux aller sur le site, je mets ma carte bleue, j'achète la formation et j'ai accès directement? Quand tu parlais que tu vendais à des entreprises et donc du coup tu avais plusieurs comptes, comment fonctionne le système de vente et comment est-ce que ça fonctionne s'il y a plusieurs personnes dans l'entreprise qui vont suivre la formation?
Alors, entre aujourd'hui et la vision, il y a une énorme différence. Nous, je pense qu'on a trouvé notre product market fit, comme on dit en startup, donc le moment où en fait on se rend compte qu'il y a un réel usage et que les gens sont extrêmement, les clients sont extrêmement satisfaits, l'année dernière. L'année dernière, on avait fait un tout petit chiffre d'affaires. On est dans un chiffre d'affaires, on va dire, à 5 chiffres. Et là, en Q1, on a déjà fait le double en Q1 2020, donc trimestre 1 2020, on a fait le double de ce qu'on a fait sur tout 2019. Donc, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment, on a compris quelque chose et maintenant, on va falloir qu'on accélère. Comment ça se passe actuellement? C'est 6 semaines, le format, donc c'est 6 semaines de formation. Il y a un module par semaine vidéo. Ensuite, il y a des exercices et des templates, des modèles à réutiliser directement dans son entreprise pour appliquer la théorie. Et ensuite, toutes les semaines, le mercredi ou le jeudi à midi, il y a une espèce de live avec l'expert de la formation et toute la promo, où en fait, on va poser ses questions, on va pouvoir aussi, en fait, on joue beaucoup sur l'intelligence collective des gens qui se répondent. Donc aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Demain, l'idée, c'est aujourd'hui, on va avoir une track growth, une track sales, une track B2B. En fait, on va avoir beaucoup de tracks différentes pour des métiers différents dans une entreprise. Demain, la vision, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait en fait un plan de formation et un parcours customisé sur toujours en vidéo pour être beaucoup plus pertinent pour chaque personne dans l'entreprise. Et en fait, on ira se mettre directement dans l'onboarding d'une entreprise, d'une PME, d'une startup. Par exemple, tu t'accueilles un nouveau commercial, tu accueilles un nouveau marketeur. Il y a plein de connaissances entreprises qu'il faut qu'il apprenne, mais il y a aussi plein de choses en fait, qu'il ne connaît pas et que toi, tu n'as pas le temps de lui apprendre. Donc, on va pouvoir se placer ici et ensuite sur la formation continue des collaborateurs.
Donc, ta proposition de valeur, c'est vraiment former vos collaborateurs, on va leur apprendre, on va leur faire de la formation continue sur le marketing, plus que je vous apprends les techniques pour monter votre business.
Exactement. Exactement, exactement. C'est plutôt, ça reste de la formation de collaborateurs. Alors, ça marche pour les formateurs aujourd'hui, ça marche, pardon, pour les fondateurs de boîtes aujourd'hui. Par exemple, toute la formation qui va être sur de la prospection automatisée sur LinkedIn pour avoir pour trouver des clients en B2B. Ça, c'est clairement, on a 60-70% de fondateurs de startups B2B. Donc, ça marche aussi, mais ça marche pour des personnes qui font des boîtes qui sont vouées à grossir et à devenir des PME. Donc ça peut être, c'est aussi entrepreneurial, mais alors faut vraiment, c'est très spécifique à des problématiques.
Je me souviens qu'au moment où tu as lancé la formation, on avait discuté ensemble au téléphone. Je sais aussi comment on a lancé ton podcast, on en avait discuté, on avait dû se rencontrer un petit peu avant
Et ouais.
au Vietnam. Tu étais passé au Vietnam à l'époque où j'habitais à Ho Chi Minh. Et du coup, j'aimerais bien replacer la timeline de combien de temps ça t'a pris entre lancer le podcast et commencer à faire de la formation.
Bah, tu vois, c'est assez marrant parce que à la base, je voulais pas forcément faire de formation. Moi, je suis à la base head of growth ou directeur marketing en startup. Après, je suis parti en freelance faire la même chose et j'ai commencé le podcast parce que je me rendais compte assez simplement. Encore, je pense le pragmatisme de se dire, j'avais 24 ans. À 24 ans, t'as pas tout vu et c'est compliqué de se vendre en tant que directeur marketing pour des boîtes assez cool. Donc, ce que je faisais, c'était j'allais voir des personnes qui avaient 5-10 ans de plus d'expérience que moi pour leur demander des conseils. Pour leur demander de challenger mes stratégies pour mes clients, etc. Et puis à un moment donné, j'ai fait une rencontre du groupe dans un groupe dans lequel j'étais qui s'appelle Mangrove, qui s'appelait Mangrove, ça n'existe plus malheureusement, qui est un réseau d'entrepreneurs et de freelance nomades. Et il y avait quelqu'un qui s'appelait Antonin Archer, qui faisait le podcast Nouvelle École, plus gros podcast indépendant du moment, c'était il y a bien 3-4 ans. Et en fait, j'ai vu que ce n'était pas si compliqué de faire des podcasts. Et je me suis dit, bon, bah, en fait, ce que je demande actuellement au directeur marketing, on pourrait faire exactement la même chose, mais au lieu de le garder égoïstement pour moi, ce contenu, ben on va mettre deux micros et puis on va le partager à tout le monde. Donc tu vois, ça vient assez, c'est assez, je pense, logique comme approche. C'est bon, ben, je fais ça et pourquoi je ne pourrais pas faire ça? On le fait, on se rend compte que ça fonctionne. Quand je dis on, c'est parce que je suis associé avec mon frère depuis le début dans cette aventure. On pourrait y revenir après sur la difficulté.
Et lui qui s'occupe, il me semblait l'avoir vu de toute la partie beaucoup plus
C'est
logistique,
ça.
c'est
À
ça?
l'époque, maintenant on en grossit, donc c'est un peu différent, mais à l'époque, c'est lui qui s'est occupé de toute la production, de faire le montage, la distribution et de m'aider sur d'autres choses.
Donc, tu as vécu un peu la même chose que moi, parce que moi, en fait, j'ai aussi démarré mon podcast à l'époque, non pas pour vendre des formations, mais en fait, à l'époque, je faisais du consulting en pub Facebook. Et puis, je me suis dit, tiens, podcast, il y a... J'ai commencé le podcast Marketingmania en 2015. Donc, à l'époque, il n'y avait pas grand monde sur le créneau. Je me suis dit, bah, tout le monde était sur des blogs, il n'y avait pas grand monde. Je me suis dit, je vais faire un podcast et je vais interviewer des gens et ça sera marrant. Sachant qu'en fait, par le passé, mon business précédent, j'avais aussi un podcast, c'était aussi mon canal. Donc, c'était assez naturel, mais je n'avais pas du tout l'ambition à l'origine d'en faire une formation. Et du coup, les formations sont arrivées vachement tard à cette échelle. Et donc, je suis curieux de savoir à quel moment est-ce que tu as décidé de faire des formations? Comment est-ce que tu as su que c'était la bonne idée? Parce que beaucoup de gens imaginent que faire des formations en ligne, c'est la seule manière de monétiser un contenu ou c'est la seule manière de faire les choses. Mais au final, pour moi, ce n'est pas la manière la plus évidente. Faire un service, c'est souvent la manière la plus évidente, la plus directe, que ce soit un service en tant que freelance ou un service en tant que coach. Donc, à quel moment est-ce que tu t'es dit, OK, la formation, c'est pertinent, ça vaut le coup de mettre le temps de le créer et comment ça a fonctionné? Ouais.
Bah, c'est hyper intéressant de te poser cette question. C'est déjà pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Ce podcast, c'est cool. Si ça fonctionne, mm-hmm. ça va donner de la notoriété.
Ouais.
Et d'ailleurs, c'est marrant ce que tu dis par rapport à ce que tu es lancé si tôt, puisque nous, on a lancé en 2017. C'est déjà c'était l'âge de la pierre français au niveau des podcasts. Toi, c'était déjà 2 ans avant. Donc, je me demande même où est-ce que tu as trouvé des gens pour écouter en vrai. En français. C'est extraordinaire, tu vois. Et c'est hyper intéressant.
Bah, littéralement, à l'époque, on était 3. Il y avait moi, il y avait Xavier Gélérand, il y avait Morgane Février. Il y avait 3 personnes.
D'ailleurs, dans
les premiers épisodes, on s'interviewait tous en triangle. On s'interviewait tous en triangle. Littéralement, on était 3. Et voilà. Et sur le domaine de la startup, il y avait personne. Tu vois, il y avait. Après, il y a Antonin Archer qui est arrivé. Effectivement, lui, il avait fait des gros coups parce qu'il avait un podcast d'interview qui mixait un petit peu le côté dev perso, le côté entrepreneuriat, le côté célébrité, etc. Et lui, il avait fait des trucs intéressants. Mais il y avait une époque où c'était quasiment la première personne à demander une interview aux gens sur un format de podcast. Tu vois, personne n'y pensait. C'était assez.
Et c'est hyper intéressant de ce que tu dis parce qu'en fait, là, on se rend compte d'un truc et ça va avec les formations et pourquoi est-ce qu'on s'est rencontrés aussi à un certain moment. C'est qu'on voit que tout ce qui va être infoprenariat, si on peut l'appeler comme ça, ça a quand même pas mal d'avance, on va dire, au niveau du marché. Ce qui fait que c'était assez malin pour t'en inspirer, c'est ce que j'ai fait, c'est pas ce que je vends, mais c'est ce que je fais, tu peux prendre de l'avance sur le reste.
Ouais.
Pourquoi est-ce que j'ai voulu lancer une formation? En fait, j'ai pas voulu lancer une formation. Moi, je me dis, bon, on a un podcast, on bosse dessus, ça prend, c'est quand même un travail de fou, je pense qu'il faut le rappeler à l'audience, pour ceux qui n'en font pas, ça demande, comment dire, une abnégation de délivrer un contenu chaque semaine qualitatif assez énorme. Et surtout que tu gagneras.
Parle-moi un peu de ce process. On va mettre ça de côté. On va mettre le côté de l'abnégation et je reviendrai dessus pour continuer sur le processus de décision de la formation, mais je mets de côté l'abnégation et on en parlera.
Du coup, ça demande pas mal d'abnégation, ce qui fait que tu te dis, bah, à un moment donné, il faut se rémunérer quand même. C'est cool de délivrer autant de valeur aux gens, surtout que nous, on fait des podcasts business, c'est-à-dire qu'on est censé te faire gagner de l'argent si t'écoutes et que ça a de la valeur. On n'est pas en train de faire du dev perso. Donc, à partir de ce moment-là, ça me paraît logique.
Donc, pour toi, ça suffisait pas de te rémunérer en générant des leads pour ton service de freelance, de directeur marketing?
Alors voilà, on se dit, bon, bah, ce qui peut être cool, à la base, quand même, l'idée, c'est aussi de faire de la notoriété parce que ça peut te générer des leads. Et on se rend compte que c'est quand même vachement dur. Ça ne marche pas tellement. Donc, l'hypothèse de base, elle n'est pas validée. On se rend quand même compte que les gens, ils sont contents, mais qu'en fait, ça ne cible pas forcément les personnes qui pourraient bosser avec toi. Et quand ça les cible, en fait, c'est long, les process. C'est très long. De décision, de vente, ce n'est pas très clair ce qu'on vend. Donc je me suis dit, il faut vraiment un moyen de monétiser plus direct. Moyen de monétiser plus direct, tout simplement d'aller sur Tipeee. On parle d'Antonin Archer, on parle de d'autres personnes, de Patrick Béja, par exemple. C'est des personnes qui ont très vite compris que pour monétiser, il suffit de faire appel à son audience. Si ce qu'on produit comme contenu, la matière qu'on travaille crée de la valeur, alors forcément, ils seront peut-être chauds de donner 1-2 euros par mois pour nous soutenir. C'est ce que j'ai fait.
Tu l'as fait.
Exactement.
Dis-moi, Antonin, il faisait combien sur du Tipeee pour avoir un benchmark de ce que tu vas nous dire,
voilà,
que toi tu gagnais?
Exactement. Donc, en parlant d'Antonin, vu qu'on se voyait quand même souvent, je le vois faire sa petite tambouille et je me rends compte qu'il fait entre 1500 et 2000 euros par mois. Et je me dis, bon, bah, c'est déjà pas mal, c'est un bon début. 1500, 2000 euros par mois, c'est extrêmement direct. Tu demandes aux gens, ils te donnent un tips, donc ils te donnent 2, 3, 10 euros par mois et roule ma poule. Donc, partant de cette idée, on lance. Grande fanfare avec mon frère, le Tipeee, la page. Allez-y tous, donnez-nous, aidez-nous et soutenez-nous si ça vous apporte de la valeur. Et au bout de 3 semaines, on se retrouve littéralement à générer 29 euros. Je sais pas si on se rend compte, 29 euros
Ouais.
pour un mois, c'est-à-dire que c'est pas tous les mois, on prend 29 euros. 29 euros, c'est rien, c'est 10 cafés. Enfin, y a un moment, faut... Et là, on s'est dit, waouh, ça, c'est la veste du siècle. Clairement, ça marche pas. Donc, on va demander aux gens, en fait, mais pourquoi en fait, on va toujours aller avoir cette approche un peu start-up, d'aller voir les gens, de faire du customer discovery et de dire, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi leurs besoins? Et comment est-ce que je peux générer, si je leur génère de la valeur, comment est-ce que moi, je pourrais, à mon tour, avoir de la valeur, donc du revenu? Et en fait, on a leur demandé, on a eu un témoignage assez extraordinaire qui a dit, mais en fait, les gars, vous vous rendez compte que ce que vous expliquez chaque semaine, c'est comment on fait x2, x3 sur un business, comment est-ce que tu fais 1, 5, 10, 100 millions, et là, vous êtes en train de quémander comme ça, presque à faire l'aumône pour 2, 3 euros. C'est complètement désaligné de votre pitch, en fait, de ce que vous faites, même de votre positionnement. Non, ça, on n'était même pas rendu compte. Et là, on s'est dit, ah oui, effectivement, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Et on s'est dit que la suite logique, bah en fait, c'est quoi la suite logique de toute cette matière travaillée? Bah en fait, c'est de la sculpter, c'est d'en faire quelque chose de beaucoup plus concret. Donc d'avoir la même chose que le podcast, beaucoup plus structuré. Et ça veut dire quoi en vocabulaire comme le nôtre, entrepreneur? Bah c'est de la formation, tout simplement. Et quand on l'a lancé, clairement, ça a direct pris et on s'est rendu compte que c'était vers ça qu'il fallait se tourner. Je pense que le succès, tu pourras me dire, mais le succès, il est assez visible. Quand ça marche pas, ça marche pas du tout. Et une fois qu'il y a un truc qui fonctionne, vraiment, ça marche et tu sais pas trop pourquoi. T'as plus qu'à aller à fond dessus.
Est-ce que t'avais un a priori négatif sur le fait de vendre des formations dans ce domaine ou pas? Parce que moi, j'en avais un, on peut en parler après.
Oui, complètement. Complètement. C'est aussi, je pense, pour ça qu'on s'est rencontrés, que j'ai demandé aussi plein à tout le monde comment est-ce que ça se passe. Parce que je pense que dans l'infoprenariat, Je veux casser de sucre sur d'autres personnes. Tout le monde fait des... Pour moi, à mon avis, dès que tu vends, c'est que tu t'apportes quand même de la valeur. Mais on sait aussi que ça peut être très shady à certains moments. Ça dépend où est-ce qu'on se place sur le graphe. Par exemple, il y en a qui vont dire qu'un Tony Robbins, c'est assez shady ce qu'il fait. Il y en a d'autres qui vont dire non, c'est extraordinaire. Comment est-ce que tu fais pour ne pas tomber dans ce cas-là? Sachant que moi, mon audience, c'est pas du tout celle-là. Donc, il faut que j'arrive à prouver que ma formation, le contenu est hyper qualitatif, mais en même temps, j'ai pas envie de le vendre de façon, on va dire, corporate et B2B, parce que c'est horrible. Et que dans l'infoprenariat, t'as plein de choses extraordinaires, avec toutes ces techniques de copywriting, toutes ces techniques de lancement, par exemple. En fait, c'est des techniques très bootstrap. Et comment est-ce que tu fais pour lier les deux, donc sans paraître trop shady, mais en même temps en disant, mais c'est pas shady de faire les choses bien.
Et notamment, un des trucs qui est vraiment fantastique avant de parler des a priori négatifs que moi aussi je pouvais avoir, c'est vraiment cette idée, ce que moi j'appelle le lancement inversé, mais essentiellement c'est l'idée de pouvoir lancer un produit plus ou moins en pré-vente, voir si ça intéresse les gens, le créer au fur et à mesure avec les gens. C'est-à-dire que dans certains cas, tu peux faire ça avec du code, mais il faut quand même être assez costaud sur le point de vue technique et c'est quand même du jonglage, alors que dans le domaine de formation, tu peux vraiment faire évoluer un truc avec les gens. Et donc en fait, en termes de marketing, en termes de ce que tu peux offrir, en termes de ce que tu peux proposer, quasiment tout ce que tu peux imaginer, tu peux le faire en fait. Juste en mettant de l'huile de coude et de l'effort et de la réflexion et de la recherche, tu peux créer n'importe quel produit, rentrer n'importe quel produit avec une grande flexibilité. Ça, c'est la grande, grande, grande force. Moi, je dirais que la question numéro un que j'avais en rentrant dans ce domaine, et c'est vrai que quand j'ai commencé Marketing Ménage, je ne voulais pas vendre des formations parce que je me suis dit, j'ai pas envie de dire aux gens qu'ils vont devenir riches rapidement, quoi. Et c'est pour ça en fait que la première formation que j'ai lancée, et que j'ai vendu, c'est la seule formation que j'ai eue pendant un an, c'est une formation qui s'appelle Copywriting Mania, c'est ma formation sur le copywriting, et du coup je la pitchais uniquement aux gens qui avaient déjà un business en fait. T'as déjà un business, viens avec moi et tu vas optimiser tes pages de vente, en me disant je vais vendre la formation qui est la plus dure à vendre, parce que c'est pas pour les débutants, ça va pas te rendre riche, ça s'adresse uniquement à la fraction des gens qui ont déjà un business, en me disant, en gros je vais lancer la formation un peu en mode difficile quoi, je vais lancer la version la plus pointue, celle qui me met le plus à l'aise, où je me dis, là, je suis ultra pertinent, je suis ultra pointu, je vais faire ça. Et c'est ça qui m'a mis à l'aise de lancer des formations et de voir que les gens allaient me suivre sur un truc vraiment pointu, vraiment compliqué. Et plus tard, j'ai appris comment faire les formations un peu à ma sauce et les vendre de la manière où j'étais confortable, etc. Mais c'est vrai qu'au départ, ça ne me mettait pas à l'aise parce que je me suis dit, tout le monde va penser que je suis un arnaqueur. Et en fait, c'est un truc que les gens ne réalisent pas tout le temps, mais quand tu es comme toi, comme moi, et que tu crées du contenu, en fait, tu as toujours un peu deux publics, en fait, je trouve. Tu as le public auquel tu vends actuellement et les gens qui te suivent, etc. Mais tu sais aussi que tu es suivi par beaucoup de tes pairs, suivi par des gens qui sont au-dessus de toi, suivi par des gens qui font 10 fois ton CA, Moi, ça m'arrive assez régulièrement. Tu as des gens qui vont 10 fois mon CA et qui sont des auditeurs Exactement. Fréquents du podcast Marketing Mania, qui sont fans de ma chaîne. Et il y a un côté où je me dis, si je, pour aujourd'hui, gratter du CA, je suis en train de faire croire à tout le monde, bah ok, Stan, c'est un arnaqueur fini qui fait que de la merde. Et ces gens-là, je vais les perdre, tu vois. Et certes, aujourd'hui, bah, le mec qui est à ce niveau-là, j'ai rien à lui vendre de concret, si tu veux. J'ai rien à lui vendre, c'est pas mon client aujourd'hui. Mais il y a un peu un truc où, voilà, je suis au début, quoi. Je suis au début de construire mon truc. Ça serait pas mal que dans 5 ans, je sois à un niveau où je peux faire un partnership avec ce gars, où on peut faire, je sais pas, des deals à plus haut niveau, d'investissement, de boîte, tout ce que tu veux, tu vois.
C'est hyper intéressant ce que tu dis, voilà. C'est un peu la réputation qu'on a envie d'avoir versus celle qu'on a vraiment aussi. Et comme tu dis, quand tu as des gens sur ton podcast, nous, ça va être les plus gros VC de la place parisienne. Donc, ça va être des investisseurs, on va dire, hyper connus, qui managent des énormes fonds, qui mettent des tickets dans des boîtes, les boîtes les plus connues comme Doctolib, etc. Comment est-ce que tu fais, comme tu dis, pour allier ta légitimité de podcasteur, de faire du contenu très bon versus je suis en train de faire de la formation. Et on sait aussi que c'est pas si bien vu que ça. Pourquoi ? Je sais pas. C'est un peu comme le métier de sales, c'est pas super bien vu, alors qu'il y a aucune raison. Et comment est-ce que tu passes par l'un et par l'autre ? Bah, c'est marrant parce que tu vois, j'ai eu un peu la même réflexion, c'est de dire, faut que je passe par le plus dur, entre guillemets, c'est de prendre des startups. Si j'arrive à faire payer des gens qui ont déjà pas beaucoup de thunes sur une formation et qu'en plus je les aide, à la fin il y aura du résultat et ce sera ma légitimité. C'est pas de dire que je suis Gabriel, c'est de dire en fait, regardez, des mecs qui avaient une boîte, ils ont fait ça, ça et ça. Comme toi, tu peux faire aujourd'hui avec tes formations. Et tu arrives, voilà, tu es passé de 0 à 10 000 abonnés. Tu es passé de 100 000 euros de chiffre d'affaires à 300 000 euros. Alors, ce n'est pas que la formation qui a fait ça, on ne va pas se mentir. Mais c'est quand même du résultat. Et moi, je pars du principe, comme pour le podcast, que le résultat, c'est la légitimité. Il n'y a pas d'où tu viens, il n'y a pas qui t'es. C'est déjà, si tu apportes du résultat, c'est que tu peux être légitime.
Je voudrais revenir sur ce que tu as donné au niveau de l'abnégation, de l'effort que ça prend de faire un podcast. Je sais que cet effort, il est souvent invisible parce qu'en fait, tu es en train d'écouter un podcast et c'est 2 personnes qui parlent pendant 1 heure. Tu te dis, bah, ça aurait pris 1 heure. Parlons un petit peu du processus de création de ton podcast et de l'effort que ça prend en fait de publier un podcast hebdomadaire sur... du coup, est-ce que tes 2 podcasts sont hebdomadaires? Est-ce que Growthmakers et Dans l'Arène sont tous les 2 hebdo?
Non. Alors, Growthmakers, c'est hebdomadaire.
Ok.
D'ailleurs, là, on a une nouvelle émission qui s'appelle Business and Covid qui passe sur les 2 chaînes de podcasts. Pour la situation, où là, c'est des tables rondes CEO. Donc, tu vois, on a CMO, directeur marketing, après, on a directeur commerciaux, et là, on a des directeurs, tout simplement, des patrons de boîte.
Ouais.
Pour Growthmakers, c'est hebdomadaire. C'est le concept très important de créer une routine, une habitude chez l'auditeur. Et pour Dans l'Arène, bah, malheureusement, c'est aussi le fait que c'est très dur. Et justement, c'est le concept, c'est beaucoup de travail, là, de créer du contenu, du bon contenu, et on n'a juste pas le temps. Donc, pour Dans l'Arène, c'est des saisons, un peu à la Netflix, où tu prends 12 épisodes tous les 3 mois.
Ok. Mais du coup, si tu as 12 épisodes tous les 3 mois, ils tombent tout d'un coup ou c'est par semaine? Parce que sinon, c'est quasiment
un c'est ça. Moi, j'aimerais bien tout faire tomber d'un coup, mais pour ça, il faut avoir un volume et une masse critique comme Netflix extraordinaire. Si tu fais tout tomber d'un coup, alors que tu as encore besoin de grossir ton podcast, parce qu'on dit 60 000 écoutes par mois sur Growthmakers, mais sur Dans l'Arène, ça va plutôt être 15-20 000.
Ouais.
Et le truc, c'est qu'on le sait bien que c'est en faisant étape par étape, avec les espèces, comment on appelle ça en français, des compound interest. C'est le fait de sortir des épisodes les uns après les autres, et à chaque fois que tu en sors un, celui d'avant, il prend aussi des écoutes.
Ouais.
C'est des intérêts, je ne sais plus comment on appelle ça en français.
Cumulé. Bref.
Et cumulé, exactement. C'est le principe de base de toute belle croissance, c'est les intérêts cumulés. Et donc, de tous les faire en même temps, je pense qu'on ne prendrait pas du tout le même impact. C'est beaucoup plus pertinent de le faire un à un.
Parlons du coup du processus de création, mettons sur un épisode, si on se met sur Growthmakers, du coup, parce qu'il est hebdomadaire. Parlons un peu du processus de création, et notamment, comment est-ce que tu fais pour faire un bon podcast? Qu'est-ce qui fait qu'un podcast est bon? Comme il y a ce côté, tu as un invité, c'est moins contrôlé qu'une vidéo YouTube, on va dire, c'est moins cadré en termes de travail. Donc, comment est-ce que tu fais pour créer ce bon podcast qui va être écouté par les gens et leur apporter de la valeur?
Waouh! Qu'est-ce que c'est compliqué comme question. Si tu me l'avais posé il y a 1 an, je t'aurais dit quelque chose. Il y a 2 ans, je t'aurais dit autre chose. Et aujourd'hui, je te dis un truc et peut-être que ce sera encore différent dans 1 an. Je pense que tu le vois moi, en tant que créateur de contenu. Au début, on pense que ça doit être très... ça doit être très organisé, très structuré. Et je pense que c'est la base. C'est-à-dire qu'est-ce que je veux dire, en fait, et de mieux le structurer, de structurer le truc le mieux possible pour que ça atteigne cet objectif de bon contenu. Qu'est-ce qu'un bon contenu? C'est hyper complexe à définir. Ce qui ment pas, à mon avis, c'est les chiffres. Donc, si tu as des personnes qui écoutent l'épisode 1, 2, 3 et qui continuent à te suivre, c'est à mon avis que tu fais un bon contenu, entre guillemets. C'est au moins que tu as fait un contenu qui apporte de la valeur. Donc, tu vois, je n'irai peut-être pas sur la définition du bon contenu, puisqu'il y a des gens qui vont trouver qu'un contenu est bon et moins bon. Et ce n'est pas, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'il apporte de la valeur et du coup, il est continué à être consommé. Et sur le processus de création, c'était ça ta deuxième question, il me semble.
Ouais, le processus de création, quelles sont les étapes, quel est le boulot qui rentre dedans, un peu le derrière des coulisses, donner un sens déjà en fait de toutes les étapes qui viennent à la fois avant et après la partie d'enregistrement.
Avant de l'enregistrement, c'est la préparation. En fait, tout doit être... La question, c'est qui est-ce qui fait le travail. Il y a un travail assez extraordinaire à faire sur la recherche de background de l'invité, sur en fait qu'est-ce que, qui va être pertinent de lui faire raconter à lui et pas à un autre. Il va y avoir aussi une recherche sur les questions qu'on aimerait poser. Va falloir... En fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses à prendre en compte sur rien que la préparation. Il me semble que c'est Churchill ou Lincoln qui disait « Si on me donnait une journée pour couper un arbre, je prendrais les trois quarts de la journée pour affûter ma lame. » Et c'est exactement ça. C'est en fait, plus ça va être préparé, plus ça va être facile. Là, tu vois, notre échange, à la base, plus ça va être facile de l'avoir, cet échange. Mm-hmm. Et ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il soit faux.
Quand tu es dans une interview, tu as quoi de préparé ?
Aujourd'hui, donc à l'époque, pas grand-chose.
C'est un document.
Voilà. Aujourd'hui, c'est à peu près tout. Ouais. C'est tout le temps la même structure. J'ai un schéma où, en fait, on va tout le temps parler au début du. Je vais te donner du contexte sur la boîte, des chiffres, parce que sinon, en fait, les stratégies ne font pas sens par rapport au contexte. Il y a combien d'employés ? Tu ne vas pas forcément pas faire les mêmes stratégies. Combien ils ont levé, par exemple ? Si tu as levé 60 millions, tu peux te permettre de beaucoup cramer. Si t'es bootstrap, ta stratégie va être forcément en fonction. Ouais. Ensuite, ça va être tout simplement qu'est-ce que la personne a mis en place dès qu'elle est arrivée dans la boîte, parce que c'est très souvent ce qui est demandé, les premiers projets, et puis ensuite les projets qui a surperformé sur 2019. Et ensuite, une liste de séries de questions, on va dire très rapides, où ça va être les outils utilisés, le meilleur conseil, donc là, à moitié développement personnel, moitié développement professionnel, entre guillemets. Ça, j'arrive avec un truc complètement préparé. Moi, j'ai déjà les réponses. Donc, en fait, je peux même facilement recadrer, parce qu'il y a aussi après, tu vois, il y a la préparation. Donc là, qui est-ce qui fait le travail ? Moi, aujourd'hui, j'envoie un questionnaire directement et les gens répondent dans le questionnaire.
Donc, tu as déjà les réponses parce que tu as envoyé un questionnaire, les gens t'ont répondu et en fait, tu sais déjà ce qu'ils vont te dire.
Exactement. Ça peut aussi se faire en les prenant au téléphone. Encore une fois, si on veut gagner du temps, si on veut que le podcast rentre dans une journée homme, on va dire, du moment où tu as décidé de le tourner jusqu'au moment où tu l'as vraiment distribué, faut être super efficace. Parce qu'on a déjà, là, dans la préparation, on a oublié l'étape d'avant qui est quand même, faut trouver les invités. De les trouver, de les qualifier, ouais. De dire est-ce que vraiment il est bien pour
les contacter,
les booker,
trouver une date,
hein, tous ces trucs-là qui sont quand même hyper chronophages. On le voit bien à chaque fois, ah ben non, je peux pas, en fait, on va décaler la semaine prochaine. Et tout ça, c'est un temps de fou.
Ouais.
C'est un temps de fou. Ensuite, tu as toute la préparation. Si tu l'as fait faire, entre guillemets, à l'invité, bah forcément, ça te fait moins de boulot pour toi. Et ce qui serait logique aussi. Si tu le prends au téléphone, ça va te prendre du temps. Moi, je me rends compte que de le prendre quelqu'un au téléphone, ça sert à rien. Parce qu'en fait, c'est presque la même chose que de faire le podcast. Je vais lui poser les mêmes questions. Il va me donner des réponses à peu près pareilles. Et le podcast, il risque d'être, on va dire, 10% mieux. Donc en fait, j'ai perdu mon temps. Vaut mieux qu'il me donne des réponses et que juste avant le podcast, on prenne 5-7 minutes pour les revoir ensemble et essayer de creuser et ensuite d'enregistrer.
C'est quoi l'importance pour toi d'avoir un podcast ultra, ultra dense, ultra rapide, qui maximise l'information à la minute ? Parce que ça semble être le fin mot en fait, de cette stratégie d'avoir les réponses à l'avance et d'avoir tout calé. Ou est-ce que ce n'est pas ça ?
L'idée, c'est d'être extrêmement pertinent. Parce que quand tu fais... nous, c'est plutôt des interviews hyper techniques. Donc en fait, si on fait de la technique, il faut quand même que tout le monde soit préparé parce que si la personne met 3 minutes à réfléchir à « Ah oui, c'est quoi déjà mes chiffres de l'année dernière ?»« Ah, je me rappelle plus trop, attends, je vais regarder. » En fait, en tant qu'auditeur, on est perdu. C'est pas intéressant.
Ça ne marche pas.
Exactement. Donc si on veut aller être efficace, à mon avis, il faut absolument préparer. Après, moi, ça va aussi dans ma façon de fonctionner, dans ma thèse, que ce podcast... pas là pour inspirer, il n'est pas là pour se faire plaisir. Tu l'écoutes pas sous ta douche, Growthmakers. Tu prends des notes, c'est de la formation. C'est presque, tu vois, c'est une micro-formation gratuite. C'est presque du temps de travail. C'est-à-dire que les gens l'écoutent sur leur temps de travail et ça me paraîtrait normal que le patron dise oui, tu peux l'écouter sur ton temps de travail. T'écoutes quand même des directeurs marketing, des directeurs commerciaux et des CEO expliquer comment est-ce qu'ils font grossir leur boîte. Donc, écouter ça le week-end ou un dimanche, c'est quand même un tout petit peu bizarre presque. Donc, à partir de ce moment-là, je me dis que time is money, le temps c'est de l'argent. Moi je suis là pour vous donner du conseil actionnable. On n'est pas là pour perdre de temps, on est là pour faire mieux ensemble, tout simplement. Donc ouais, il faut que ça soit assez millimétré.
Carrément. Et Donc, tu as préparé l'invité, tu as l'invité dans l'interview. Est-ce que tu as des éléments spécifiques que tu veux aborder sur le processus d'interview, ou est-ce qu'au final, tout a été fait en préparation et l'interview, c'est juste dérouler ce qui a été déjà prédit?
Le fait d'avoir ce questionnaire et que les personnes, les invités, prennent un peu de temps pour y répondre, ça leur rafraîchit forcément la mémoire. Ce qui fait qu'eux, déjà, ils savent, sans s'en rendre compte, inconsciemment, ils sont déjà préparés. Parce qu'il y a aussi ce truc important, et là où c'est un peu plus artistique, c'est que l'interview va être beaucoup par rapport à la personnalité qu'on a en face, et ça, on ne peut pas la scoper avant. Donc, il y a des gens extrêmement brillants en marketing, en vente, des directeurs vraiment brillantissimes, super bons managers, mais qui ne vont pas être bons à l'oral, qui ne vont pas être bons à expliquer, à être inspirants, en fait. Et ça, tu ne veux pas le savoir à l'avance. Donc, il faut absolument, encore une fois, mieux scoper, essayer d'être au maximum sur les stratégies, en fait, sur du concret et moins sur les personnes. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
Ouais, carrément. Ça répond en fait vraiment à ce que toi, tu recherches dans ton émission, quoi, et la proposition de valeur de ton émission. Et c'est intéressant que tu sois aussi clair sur cette proposition de valeur et que tout le process en découle. Comme tu l'as vu, mon process à moi, il est assez différent et ce que je recherche dans mon émission, il est assez différent. Et donc, du coup, ça va avoir un effet secondaire. Mais tu vois, comment tous les éléments, les process de ton business viennent aussi de cette proposition de valeur. Et à partir du moment où ta proposition de valeur, c'est tu vas apprendre les techniques de marketing de telle personne, quelle est la manière la plus efficace de dérouler les techniques marketing de telle personne. Et si à l'inverse, ton podcast, c'est j'ai envie de vraiment comprendre, je sais pas si t'interviews une célébrité, tu vois, et j'ai envie de vraiment comprendre cette célébrité, son fort intérieur, là, tu auras un process probablement opposé, ou au contraire, tu lui fais préparer le moins possible. Parce que tu te dis, si c'est une célébrité qui a un truc qui est répété, ça va être le même truc qu'il a dit sur tous les plateaux télé et je veux le prendre de court.
Exactement. Tu perds la spontanéité, tu perds l'authenticité. C'est exactement ça. Et ça, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne le sait pas au début. Si les auditeurs, tes auditeurs réfléchissent à lancer un podcast, moi, je te dis ça maintenant. Au tout début, les podcasts faisaient par exemple une heure sur le format. Aujourd'hui, ils en font plutôt 30 à 40 minutes. Parce que je me suis rendu compte que le temps était un problème. Et je ne savais pas non plus qu'il ne fallait pas forcément parler du background de l'invité. Parce que ce qui m'intéressait, c'était le business. Tu vois, moi, ce n'est pas, par exemple, quand je fais une interview, ce n'est pas Stan de Marketing Mania, bien que tu sois quand même connu. C'est d'abord la boîte Marketing Mania, by, avec après le titre, c'est x2, par exemple, sur 2019, by Stan. Mm-hmm. Ça change complètement. Alors que ça pourrait être l'inverse, et beaucoup de podcasts sont sur la personnalité. Et ça, je ne savais pas au début. Au début, moi, j'étais un peu sur tout. Tu vois, j'interviewais une heure, je parlais de l'invité, de son background, où est-ce qu'il a fait ses études. Et en fait, avec l'apprentissage, avec des retours, avec moi aussi, simplement, ce que tu commences à ressentir quand tu fais ces choses-là, tu te dis en fait, non, ce n'est pas ça qui intéresse ou qui m'intéresse moi, parce que c'est assez personnel aussi un podcast. Je peux le lire tout seul, je peux l'avoir en la conversation en off, mais ce qui intéresse vraiment, c'est, on va dire, le crème de la crème de cette matière travaillée, c'est les méthodes, c'est en fait qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils en sont, les difficultés dans leur business. C'est pas qui ils sont, ça intéresse moins les gens.
C'est vraiment intéressant parce que pour avoir fait beaucoup de podcasts et d'interviews vidéo récemment, parce que je sortais un livre en janvier, donc j'ai dû en faire 40, 50, je pense, pendant le décembre et janvier. Et c'est vrai que...
T'as fait 40-50 interviews, là ?
Ouais, en genre une semaine décembre, une semaine sur janvier. Tu regardes YouTube, tu tapes...
Je sais pas si...
Mais du coup, tu vois, j'ai vu vraiment une communauté. Et c'est vrai que la plupart des gens font des émissions où ils posent un peu les mêmes questions qu'une autre personne. Et en fait, il y a un peu ce truc où... moi, mon format, je fais une interview et les gens s'arrêtent dans leur réflexion à faire une interview. C'est un peu comme si je disais, moi, je fais des analyses marketing. Et je m'arrêtais là, tu vois. Alors qu'au final, si tu creuses dans le format que je fais, par exemple, sur YouTube, il est beaucoup plus spécifique, disons, que simplement parler de marketing. Il y a une approche particulière sur la psychologie et de manière de le construire. Il y a une certaine durée, il y a un certain point de vue dans le contenu qui le rend différent de ce qui se propose ailleurs. Et je pense que dans le domaine des interviews, les gens, ça, ils ont tendance à le laisser de côté. Ils vont se dire, OK, moi, je fais une interview, c'est juste poser des questions à la personne sur son parcours.
Ouais, c'est l'autre qui fait le boulot et voilà.
Et du coup, ça fait que ton interview, ton émission, elle n'est pas forcément totalement différente de ce qui se fait ailleurs. Alors que si tu arrives comme toi, avec un point de vue très spécifique, tu peux produire un contenu qui est différent de ce qui se propose ailleurs, simplement parce que ton process s'y prête et que tu t'arrêtes pas à dire, OK, moi, je veux une interview, mais tu te dis, OK, cette interview, elle sert à quoi? Elle va être écoutée par qui? Elle doit durer combien de temps? Elle doit apporter quoi? Qu'est-ce qui rentre dedans? Qu'est-ce qui ne rentre pas dedans? Et cette intentionnalité-là, en fait, c'est la clé de la proposition de valeur du podcast.
Exactement. Exactement. Je pense que le podcast, encore une fois, c'est très personnel. Une fois qu'on lance et que le format évolue en fonction des apprentissages, en fonction de ce qu'on a envie d'apprendre aussi, parce qu'encore une fois, le podcast, c'est le podcasteur qui le fait. C'est pas une émission professionnelle. Donc moi, je trouve que je le cadre peut-être un petit peu trop. Et plus j'avance et moins j'ai envie de le cadrer. Le dernier format qui a été produit, qui sont ces tables rondes, je me rends compte que je suis beaucoup plus, on va dire, à l'arrache. Personne prépare rien, on prépare beaucoup moins et c'est beaucoup plus spontané. Donc c'est beaucoup plus un CEO qui va aller donner son ressenti. Et si on veut parler de ressenti et de sentiment, on peut pas trop préparer. Parce que du coup, comme tu dis, tu perds cette authenticité, tu perds cette spontanéité. Et moi-même, en fait, je me bats contre ma propre personnalité qui est d'être très control freak, d'essayer de contrôler tout ce qui se passe. Donc tu vois, il y a aussi quelque chose de très personnel dans comment est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a envie de dire, comment on va le dire.
Au niveau de tout ce qui est ce qui se passe après l'enregistrement, le montage, la post-production, à ce niveau-là, est-ce que tu fais des choses qui sont différentes des autres? Est-ce que tu as des méthodes particulières que tu utilises? Ou est-ce que là, c'est pour moi, ça, c'est la partie qui est le plus dont je m'occupe le moins, on va dire.
Moi, c'est pareil. Je t'avoue, ça, c'est un petit peu. C'est mon frère qui l'a toujours fait depuis le début. C'est vrai que parfois, on me demande des. Tu vois, au tout début, même en préparation, là, quand on se parlait avant l'interview, je te montrais mon enregistreur. Et en fait, techniquement, je suis vraiment pas bon. Ça, c'est, faut que je l'avoue, je suis pas très bon parce que je m'en suis jamais occupé. C'est pas grave, mais du coup, tu vois, pour tout ce qui est post-prod, je pense qu'on fait des choses assez simples. Ça va être Auphonic. Donc on upload des fichiers sur un SaaS, un soft qui va aller aider les pistes à les remettre à la bonne taille pour pas qu'il y ait des gens qui parlent beaucoup trop fort. Donc ça va un peu linéariser l'audio. Ensuite, au niveau de l'outil, après on est sur Acast, qui était anciennement Pipa, et on réfléchit à bouger sur Art19. Donc ça, c'est une plateforme qui permet de distribuer sur toutes les plateformes d'écoute un podcast, notamment Spotify, Apple Podcast. Que sais-je, toutes les autres. Et puis c'est à peu près tout, hein. Je pense que le plus intéressant au début, encore une fois, c'est d'avoir un contenu différent, différencié, qui apporte de la valeur, et ensuite de trouver un bon moyen de le distribuer. Tout le reste, techniquement, tant que l'audio est correct, c'est bon. Je pense, le vrai sujet, il est sur la distribution. Comment est-ce que tu fais comment est-ce qu'on fait pour se démarquer, quand il y a tant de concurrence? Aujourd'hui, comme tu disais, en 2015, vous étiez trois. Moi, en 2017, je pense qu'on était 15. Et puis aujourd'hui, il y en a 300.
Le truc, c'est qu'on était trois, mais que ça veut dire qu'il y avait aussi personne qui écoutait des podcasts. Donc, de toute manière, tes auditeurs, il fallait aller les chercher. Moi, mes auditeurs, j'allais les chercher.
Exactement.
Et ils ont découvert que le podcast,
Exactement.
ça existait parce que je leur dis, bah, il y a un truc qui s'appelle le podcast et je vous explique comment faire et voilà l'application qu'il faut utiliser et voilà où vous allez cliquer sur votre iPhone pour pouvoir le télécharger. Donc, il fallait de toute manière aller les chercher quelque part. Tu vois, c'est un peu les deux pendant de la pièce. C'est-à-dire que, au final, avec la croissance du monde du podcast en général et avec autant de podcasteurs qui ramènent de l'audience dessus, c'est devenu plus facile pour un podcast de trouver des auditeurs puisque les gens sont déjà dans la routine d'écoute de podcast, ce qui était moins le cas à l'époque. Donc je pense qu'il y a un trade-off dans les deux cas, mais il reste un problème spécifique au podcast, je pense, qui est vraiment cette question de distribution, de viralité. Sur YouTube, il y a une plateforme de recommandation qui est absolument démentielle, où tu peux faire des vidéos et si tu fais des bonnes vidéos et que tu as les bons titres, les bonnes miniatures, le bon contenu. Et bon, moi, je l'ai diffusé à l'extérieur et j'avais quand même tout un tas de techniques qui permettaient de ramener mes premiers abonnés, tu vois. Mais il y a un point où la machine de recommandation est extrêmement efficace. Un article de blog, tu as le référencement Google qui va arriver. Bon, ça prend du temps, mais ça arrivera. Tu as quand même des partages sur les réseaux sociaux, etc. Un podcast, on a de un, pas de grande plateforme de recommandation. En tout cas, enfin, la différence entre la recommandation sur iTunes et la recommandation sur YouTube, c'est même pas dans le même univers. Spotify commence à arriver et faire du boulot là-dessus. Ils sont forts en recommandation, mais c'est relativement récent. Et d'un autre côté, bah, le bouche-oreille, parler de ça aux gens, le partager, c'est pas aussi facile de partager un podcast, de rentrer dedans. Donc il y a un vrai problème de distribution sur le podcast. Il y a probablement une rétention qui est correcte des auditeurs que tu as, mais comment est-ce qu'un nouvel auditeur va s'engager, même sur un podcast comme le tien, s'engager à écouter un épisode de 30 minutes, se dire je vais me plonger là-dedans? Comment est-ce que toi, tu as débuté? Et comment est-ce qu'aujourd'hui tu réfléchis à cette question?
Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis sur la différence entre une machine bien huilée comme YouTube, où maintenant tout le monde connaît, en fait, la masse est sur la plateforme, donc il n'y a pas besoin d'aller faire d'acquisition ailleurs, versus le podcast qui est quand même vachement à la traîne, même au niveau du tracking, de l'analyse. Pareil, on parle de rétention, mais en
Bah,
fait, on ne sait pas trop. On ne sait pas
c'est
trop.
Apple qui a été dominant sur le marché depuis, en gros, que l'iPod est sorti. et qui n'en a jamais rien eu à carrer.
Exactement.
De ça, qui n'ont jamais voulu prendre l'argent qu'ils auraient pu prendre sur une plateforme de pub, etc. Et donc,
maintenant, ils sont morts des doigts.
Hein. Aucun incentive financier.
Exactement. Donc, en fait, les manières de croître, à mon avis, vu qu'elles sont réduites, faut être soit très créatif, soit aller encore une fois au bon sens. Et le bon sens, c'est un peu toujours le même. C'est de se dire, bon, bah déjà, on va aller voir d'autres personnes qui ont des plus grosses communautés que moi, pas beaucoup plus grosses, mais plus grosses, pour faire de l'acquisition. Là, j'imagine, avec un peu de chance, si j'apporte de la valeur à tes auditeurs, ils vont se dire, tiens, c'est quoi ce truc Growth Makers? Je vais voir. Pour ceux que ça intéresse, ils vont continuer à écouter. Quand toi, tu passes sur mon podcast, j'ai une audience bien plus petite, mais différente. Donc, pareil, il y en a qui vont se dire, ah bah tiens, j'avais jamais vu ce point-là du business, là, la psychologie et le copywriting et tout ça, moi, ça m'intéresse. C'est vrai que c'est intéressant. Et hop, je vais aller écouter. Donc, je pense que c'est la première manière et la plus simple de faire de l'acquisition, c'est d'aller avec d'autres copains podcasteurs et d'essayer d'échanger des audiences et en fait de créer de la valeur. C'est pas gratuit, on n'est pas juste en train de dire allez écouter ça, c'est est-ce qu'on apporte de la valeur et puis est-ce qu'il y en a qui sont intéressés par écouter ce que je raconte. Il y a ce premier truc. Et ensuite, sur les plateformes, moi, je ne crois pas trop aujourd'hui encore au référencement. Ça marche très bien si tu arrives à être feature, donc présenté en avant-première, enfin, en mise en avant par Apple, par exemple. Je pense que tu l'as déjà été. Donc, tu pourras mieux en parler que moi. Moi, je n'ai jamais été. Donc,
J'ai été mis en avant sur mes deux podcasts. Nomadita, notamment, était vraiment mis en avant sur la homepage de iTunes, ce qui était bien et je pense que ça l'a aidé au départ. Mais ce n'est pas non plus transcendant. C'est-à-dire que même là, tu vois, tu peux être numéro un dans la catégorie entrepreneur. Ce n'est pas non plus transcendant. Il n'y a pas non plus des gens qui sont là tous les jours à aller checker les rankings. Clairement. C'est tellement différent de YouTube où quand tu tapes youtube.com, tu vas avoir la gueule de Stan Leloup qui est là et qui fait « Vas-y, clique sur ma vidéo coronavirus », tu vois. Parce que une vidéo YouTube que je fais là qui marche bien, c'est hallucinant le nombre d'impressions qu'elle fait. Elle va faire 5 millions d'impressions de la miniature, tu vois, sur... Enfin, c'est le jour et la nuit, quoi. Tu peux pas te reposer dessus, tu peux pas te reposer sur iTunes pour choper tes abonnés
non,
dans tous les
non,
cas.
Non, mais je pense que c'est une question... Vraiment, ouais, c'est une question de volume. YouTube, c'est combien de millions ou de centaines de millions d'heures de vidéos consommées par jour versus Apple Podcast. Les gens qui vont cliquer sur la catégorie business, déjà, je pense que si tu reprends la masse totale par jour qui y va, c'est ridicule. Donc, même moi, comme tu dis, c'est côté numéro 1, 2, je pense que ça change pas grand-chose. Donc, ce qui est plus difficile, c'est après de sortir de cette catégorie pour aller non pas sur la catégorie business, mais d'être sur la homepage, comme toi, ça a pu t'arriver. Et après, c'est de continuer, en fait, et de faire en sorte qu'aujourd'hui, on a de la chance, le marché grossit. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire grand-chose, et en fait, ça grossit naturellement. Il y a de plus en plus de gens qui écoutent des podcasts, donc il y a de plus en plus de gens qui vont être intéressés par écouter des podcasts entrepreneuriaux.
Et il y a aussi le bouche-oreille à l'ancienne, quoi.
Exactement.
C'est vraiment une personne qui va dire à une autre personne. C'est la viralité en mode, tiens, j'ai écouté un podcast, il est pas mal. Il y a beaucoup de gens qui vont poster aussi sur LinkedIn, les podcasts à suivre dans telle catégorie et qui vont en parler dans les commentaires. Les gens recommandent d'autres podcasts et les gens s'en parlent. Ils disent, tiens, t'aimes ça, tu devrais aussi écouter ça. Mais c'est vraiment la viralité à l'ancienne, du vrai bouche-à-oreille avec des individus.
C'est ça,
quoi.
À l'ancienne. Moi, je pense
pas de la viralité super chargée de réseaux sociaux qui part en une seconde et qui se fait tout seul.
C'est ça. Ah non, c'est pas de la vraie viralité. C'est ça. C'est marrant que tu en parles puisque je pense que mon canal le plus viral, c'est pas moi qui le fais, c'est les Slack des entreprises. Donc, c'est cet outil de messagerie interne où en fait, tu as des CEO, tu as des CMO qui vont envoyer ça. Alors, je dis, regardez ce que je viens de voir passer. Allez écouter. Parce qu'encore une fois, quand tu es dirigeant de PME ou de startup, tu as tout à gagner à ce que tes employés aient écouté un podcast. Au pire, ils ont perdu 30 minutes. Au mieux, ils te font gagner, ils ont de l'impact sur le business après.
Ce qui fait que le podcast, c'est vraiment la plateforme, peut-être plus que tout, où tu vas avoir une croissance qui est assez linéaire, en tout cas selon mon expérience. C'est-à-dire que tu vas gagner petit à petit des auditeurs, tu n'auras pas de grands pics, tu n'auras pas de grandes baisses, tu n'auras pas d'énormes fluctuations, mais tu vas les gagner petit à petit, tu vas les grappiller. Et il n'y a pas de manière de hacker le truc et de choper énormément des auditeurs, ça prend du temps pour les gens de te découvrir, de rentrer dedans. Mais par contre, le pendant de ça, c'est la fidélisation, quoi. Il y a vraiment des podcasts, moi je suis un auditeur de podcasts depuis longtemps, il y a des podcasts que j'écoute depuis probablement 10 ans ou plus. Je ne sais pas exactement quand Tim Ferriss l'a lancé, mais je me souviens d'avoir écouté les premiers épisodes du podcast de Tim Ferriss et je continue encore régulièrement à l'écouter aujourd'hui. Tu vois. Donc, il y a un niveau de fidélisation qui est vraiment intéressant.
Qui est énorme. Et comme tu dis, en fait, c'est pour rebondir sur l'abnégation, donc le travail que ça demande. C'est pour ça qu'on ne peut pas en faire 5, on ne peut pas en faire 10, on peut pas en faire 20. Il faut continuer pendant très longtemps avant d'avoir cette courbe qui commence à... Puis après, elle grossit de plus en plus vite. Mais ça reste, comme tu dis, assez linéaire. Donc, il faut faire tout ce travail, semaine après semaine, pour gagner, grappiller petit peu par petit peu. Il
ouais.
n'y a pas de one shot.
Ouais. Moi, j'ai toujours cette grande théorie, tu vois, sur les avantages et les inconvénients de différentes plateformes. Et c'est clair que le podcast a des grandes forces et aussi des grandes difficultés qui sont assez, en fait, opposées à YouTube au final. Tu vois, où YouTube a vraiment ses forces en termes de viralité, qui fait que, pour moi, ils sont assez bien complémentaires. Mais c'est important, quand tu choisis ces plateformes, de les choisir en connaissance de cause. Et de savoir que si ton objectif, c'est de faire un podcast et de partir uniquement sur un podcast, ben, il faut être préparé à gravir les marches une par une, sachant que ce qui est assez cool, par contre, sur un podcast, c'est que les gens qui te découvrent sur le tard vont bien souvent aller réécouter tes anciens épisodes, qui sont donc pas perdus, qui vont quand même avoir de l'audience, qui vont quand même être découverts plus tard. Je veux qu'on parle d'un sujet qui est assez important dans ta carrière au niveau des discussions qu'on avait eues et des recherches que moi j'avais faites, qui est toute la question du réseau, toute la question des mentors. Et on peut commencer par quelque chose que tu as mentionné plus tôt, et je sais qu'on avait déjà parlé de ce sujet ensemble, qui est Mangrove. Tu as mentionné que Mangrove n'existait plus. Qu'est-ce que Mangrove c'était? Qu'est-ce que ça t'avait apporté? Et peut-être qu'on parlera de pourquoi est-ce que ça n'existe plus.
Mangrove, c'est un réseau d'entrepreneurs, de freelance, qui est sélectionné par des fondateurs. Il y a un process assez rigoureux de sélection qui va être digital nomade. Donc, c'était en 2015 que ça s'est lancé par 4 anciens plus une autre personne de Molotov TV. Ils sont quittés la boîte. Ils ont dit, en fait, c'est hors de question de reprendre des horaires. Il n'y a aucune raison de vivre dans un monde digitalisé et de faire du 9-to-5, donc de faire en fait des horaires industriels dans une boîte alors qu'on peut le faire de n'importe où. Donc c'est un peu le concept du nomadisme, c'est-à-dire il n'y a aucune raison de continuer à aller tous les matins au bureau et de finir à 19h alors qu'on hérite ça de l'ère post-industrielle où il y a besoin d'aller à l'usine, puisqu'en fait, nous, une heure de plus ou une heure de moins au bureau, ça ne fait pas produire X% de plus de quelque chose. Notre productivité, elle ne fonctionne pas comme ça. On fonctionne avec notre cerveau, on vend du temps de cerveau. Parfois, en 3 heures, on va pouvoir avoir délivré un truc incroyable. Et parfois, en 10, bah, juste, ça ne marche pas. On n'est pas productif. Partant de ce constat-là, ils ont commencé à lancer Mangrove et de dire, bon, bah, on va réfléchir à cette chose-là et en même temps, on va faire du freelance et on va aller bosser aux quatre coins du monde, du Maroc, du Portugal, en Asie. Et on va réfléchir, on va faire des retraites. C'est-à-dire qu'on va prendre une dizaine de personnes à chaque fois qui changent toutes les semaines. Et puis, on va rencontrer plein de gens et on va construire un réseau de freelance, d'entrepreneurs. Et puis, un petit peu think tank quand même. Il y a quand même cette idée d'aller essayer de réfléchir à ce qu'on fait, au sens du travail. C'était un peu cette idée un peu de future of work. C'était pas juste un réseau de personnes qui veulent être freelance.
Donc, c'était des événements, des retraites. Il y a un aspect forum, il y a un Slack, il y a des appels. Comment ça fonctionne?
Exactement.
Tout ça?
Ça fonctionnait, ça a beaucoup évolué, mais on va dire qu'à la base, on est monté à 150 membres. T'avais vraiment un aspect très communautaire parce que toutes les personnes devaient être cooptées par une personne et acceptées par 2 des membres fondateurs de Mangrove, ils étaient 5. Donc, tu avais quand même un process de sélection très rigoureux. Et ensuite, voilà, tu avais une vie, tu avais un Slack avec plein de channels différentes qui vont être sur le freelance, comment on se lance. Il y a plein de gens qui étaient encore dans des boîtes et qui étaient juste intéressés par comprendre, et des gens brillants hein, qui étaient dans des boîtes à des hauts postes et qui disent comment est-ce que moi je peux créer la même chose, mais en freelance. C'est-à-dire à gagner plus d'argent et avoir plus de temps pour moi pour réfléchir au reste.
Est-ce que c'était payant d'être membre de Mangrove ou c'était vraiment juste être coopté?
Non, c'était gratuit. Mmh. Non, c'est gratuit. Ouais, non, c'est complètement gratuit. Et ça n'a jamais été payant. Les retraites sont payantes, bien sûr, on paye pour sa place. Mais sinon, non, d'être dans le réseau, il n'y avait aucune incentive financière, aucune raison, non.
Et parle-moi un peu de toi, ce que ça t'a apporté de faire partie de ce réseau-là. Est-ce que tu étais nomade avant de le faire? Est-ce que c'est ça qui t'a donné l'impulsion de le devenir?
Non, je n'étais pas nomade. J'étais en start-up, je faisais du growth, donc je faisais ce qu'on appelle de la croissance. Plus simplement, en résumé, je faisais en fait, mon but, c'était d'augmenter les taux de conversion d'une application. Donc, la question principale qu'on me posait, c'est aujourd'hui, sur 100 personnes qui arrivent sur cette application de vente de photos, il y en a 10 qui payent. Gabriel, comment est-ce que tu fais pour qu'il y en ait 20 qui payent? Donc, tu vois, ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est comment est-ce que tu fais pour qu'aujourd'hui, il y ait 50 personnes de ces 100 personnes qui viennent de l'organique, c'est-à-dire de réseaux d'acquisition, de canaux d'acquisition qui nous coûtent 0, comment on fait pour maintenant il y en ait 60 qui viennent plutôt que 50? Donc, voilà, dit concrètement, c'était ça mes missions. Et en fait, je me suis dit, à un moment donné, j'ai vu ce réseau qui se lançait et je me suis dit, bah, ça, c'est génial, je vais aller voir ce qui se passe. Parce que pareil, on était en 9-to-5 et je me suis dit, mais en fait, moi, ça m'ennuie. Il n'y a pas de raison que je sois là toute la journée au bureau alors que je peux le faire de n'importe où ce que je fais là. d'améliorer les taux de conversion, je n'ai pas besoin d'être dans un bureau. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'il y a une vidéo de la première retraite au Portugal où on voit ma tête pendant 15 secondes où à la fin, je dis en fait, ouais, je pense que je vais démissionner. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'étais encore au bureau, encore au boulot et je dis, ouais, je pense que je vais quitter. Et trois semaines après, j'étais en train de démissionner.
Donc, c'est ça qui t'a donné aussi l'impulsion et peut-être la confiance de le faire.
Ah mais oui, mais c'était extraordinaire. Pour la première fois de ma vie, t'es entouré de gens. Encore une fois, ce principe de cooptation, c'était des gens brillantissimes que je pouvais pas vraiment, avec qui je pouvais pas vraiment discuter avant. Donc là, j'avais vraiment, je retourne dans la cour des grands. Je suis petit qui n'a rien vécu. Toutes les personnes entre 2 à 5 ans plus que moi d'expérience. Je me dis, mais là, j'en prends dans tous les sens de la connaissance, que ce soit sur de la crypto-monnaie, que ce soit sur du freelance, que ce soit sur du marketing. Enfin, en fait, il y a mille choses. J'ai bien aimé appeler ça la claque mangrove. Tu arrives dedans et tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu es sonné pendant au moins quelques mois. Et donc, oui, après, au niveau du réseau, c'était extraordinaire. Et je me suis dit, en fait, il n'y a aucune raison de rester dans la boîte dans laquelle je suis.
Il y a une raison particulière pour laquelle mangrove s'est terminée ou c'est juste la dissolution naturelle d'une communauté qui a vécu son cours?
Je pense que c'est la dissolution naturelle d'une communauté qui a vécu son cours, sachant que en fait les profils étaient assez extraordinaires dedans et que tout le monde au bout de 2-3 ans avait son produit, son projet. Donc au début, si on est tous freelance, on se pose plein de questions. Tout le monde a lancé plein de projets à ce moment-là et en fait 2-3 ans après, il y a plein de projets qui ont bien pris. Notamment, un des fondateurs a lancé la chaîne YouTube de rap qui s'appelle Le Règlement. Donc, c'est des analyses de rap. Mmh. Aujourd'hui, c'est une des plus grosses chaînes françaises de rap. Ouais. Rien à voir. Lui, il faisait du produit en startup. Hein. Un autre fait des festivals un peu à la Burning Man, en fin fond c'est pas de la Creuse, mais dans la campagne française. Et ça, c'est pareil, c'est une très grosse communauté de personnes qui va tous les ans. Cette année, ça va être un petit peu compliqué, mais puis t'en as un autre qui a décidé de lancer une agence. Et putain, en fait, tout le monde a décidé de faire des projets qui sont plus ou moins successful, très souvent assez successful d'ailleurs. Et un autre qui veut écrire un livre, un autre qui devient directeur d'une formation chez HEC. En fait, il y a plein de choses qui se passent, ce qui fait que naturellement, les gens, en fait, ils ont moins de temps. Et vu qu'il n'y a pas d'incentive de business, de revenus, bah, à un moment donné, on se perd de vue.
Mmh. Un truc qui me frappe dans le milieu startup, et je pense que c'est un truc qui fait aussi le succès de ta carrière, c'est vraiment cette capacité à réfléchir en termes de réseau et à rentrer dans les réseaux. Je voudrais parler juste après de ces deux cultures différentes que sont d'un côté l'infoprenariat et de l'autre le monde de la startup, vu que toi, tu es un peu au milieu des deux. Tu es lié plus communautairement, disons, au milieu de la startup avec un business model qui a un pied dans l'infoprenariat. Mais je voudrais qu'on revienne plus tard à ce choc des cultures, mais en tout cas, s'ils ont un truc en commun, c'est que c'est vraiment des milieux qui sont assez communautaire, presque assez sectaire, avec tout le monde se connaît un petit peu. Enfin, dans le milieu de l'infoprenariat, si tu veux, il y a vraiment 2 degrés de séparation entre tout le monde. Quoi. Les gens sont souvent choqués de qui se parle, qui se connaît. Voilà, c'est un petit milieu et en fait, soit tu es dedans et il y a un côté où soit tu n'es pas dedans. Et souvent, je vois des gens qui sont à l'extérieur du milieu et qui veulent, je sais pas, faire un service pour les infopreneurs à droite, à gauche. Et je me dis, mais ça, enfin, ce que tu es en train de me dire là, ça sonne creux. Tu passes totalement à côté de la préoccupation des gens. On voit que tu n'es pas dans le milieu, tu n'es pas dans le cercle à parler aux gens. Et c'est un peu dommage parce que d'un autre côté, comment est-ce que tu fais pour percer dedans? Comment est-ce que tu mets le pied dans la porte? Comment est-ce que tu te fais accepter? Je suis curieux de toi, comment est-ce que tu as mis ce pied dans la porte? Comment est-ce que tu t'es fait accepter? Comment est-ce que tu es devenu une figure aujourd'hui qui doit être connue, j'imagine, de la plupart des gens et tu dois avoir des contacts pas mal dans ce milieu-là, mais au départ, tu n'étais pas dans le cercle. Comment est-ce que tu mets le pied dans ce cercle-là?
Clairement, tu touches quelque chose du doigt qui est hyper important et dont je parle très rarement parce qu'on ne pose pas la question tout simplement, c'est comment est-ce que tu fais pour percer, je vais le mettre entre guillemets parce que je ne pense pas que j'ai percé, mais comment est-ce que tu fais pour percer quand tu ne fais pas partie des réseaux grandes écoles? Parce qu'en fait, c'est ça le point, c'est que tous ceux qui réussissent aujourd'hui, c'est des gens qui ont fait des grandes écoles. Ils ont tous le même background.
Dans la startup, c'est le cas?
Ah ouais, bien sûr que oui.
Parce que dans mon milieu, c'est absolument pas le cas. Mais dans la startup, ouais, c'est des grandes écoles.
Dans la startup nation, t'as que du HEC, du SCP, du Central et du Polytechnique.
Okay.
Pour te donner même juste... Et c'est pas grave. Je dis juste qu'il faut être conscient de ce constat. Il faut observer et se rendre compte comment... Si je comprends les codes, je pourrais rentrer dedans. Mais tant que j'ai pas compris les codes, je pourrais pas les craquer. Et là, quand t'as conscience de ça... que dans toutes les CEO, les fondateurs, les dirigeants des plus belles boîtes, startups ou PME, ont tous fait ce genre d'école, tu te dis, il y a un truc quand même. Les gars, c'est sûr que du coup, si mon ambition, c'est d'avoir ce genre de boîte, va peut-être falloir que sachant que je n'ai pas fait ce genre d'école, va peut-être falloir que j'arrive à trouver cette espèce de chemin le moins parcouru. C'est pas un shortcut.
Tu interprètes là-dedans un effet de réseau ou un effet de les écoles t'apprennent des trucs de ouf?
Les deux. Je pense que les meilleures écoles comme HEC, ESCP, c'est quand même, c'est que il y a beaucoup de profils brillantissimes. Et puis après, tout simplement, tu as aussi l'effet réseau. Enfin, c'est des synergies, des cercles vertueux qui vont dans tous les sens. Très souvent aussi, les parents ont déjà fait des choses avant, beaucoup d'entrepreneurs. En fait, quand tu es entouré de gens qui réussissent, c'est un peu ce principe. Quand tu es entouré de gens qui réussissent, c'est beaucoup plus facile de réussir. J'ai jamais vu quelqu'un aujourd'hui réussir, réussir peu importe quoi comme projet, hein, s'il n'est pas entouré de gens qui réussissent. Regarde dans l'infoprenariat, si on prend cet exemple, c'est pourquoi tout le monde se connaît, c'est que tout le monde est entouré des gens qui réussissent dans l'infoprenariat. Et tout le monde se connaît. Et tant que tu n'es pas allé dans cette espèce de groupe qui réussit dans l'infoprenariat, ça devient beaucoup plus compliqué. Je pense qu'en startup, c'est pareil. Tu vois, tout le monde lève avec les mêmes personnes. Enfin, c'est beaucoup. Et je pense que dans tous les milieux, c'est pareil. Hein. Dans les médias, que je commence à un petit peu connaître, dans les médias business, B2B, à la télé, c'est pareil. Tout le monde se connaît, c'est beaucoup d'entre-soi. Et je pense que c'est vrai dans tous les milieux. Il faut juste réussir à comprendre comment est-ce que je peux... C'est quoi ma valeur ajoutée et comment est-ce que je peux rentrer dans ce truc-là.
Parle-moi du coup un peu des codes de ce milieu de la startup et de l'école de commerce. Qu'est-ce que toi, tu as remarqué que tu ne comprenais pas au départ et que tu as remarqué ensuite? Ou qu'est-ce qui t'a permis de te faire accepter si c'est un milieu où, de base, tu n'avais pas forcément le ticket d'entrée qui était fait pour toi?
Là, je t'avoue que ce serait peut-être plus facile de demander à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, parce que je pense qu'entre mon discours et peut-être comment l'autre le perçoit, ça va être différent. Moi, je pense qu'il faut être passionné et prêt à ne pas compter ses heures. Il faut être passionné, il faut avoir une envie et avoir une volonté mais extraordinaire. Par exemple, pour être très concret, j'ai beaucoup fait de rendez-vous avec des entrepreneurs, énormément gratuitement, juste pour les aider. J'ai organisé, co-organisé. Tu prends énormément d'initiatives. J'ai co-organisé des meet-up qui s'appelaient Mobile Growth à l'époque et gratuitement, juste parce que j'étais passionné, j'avais envie de faire du growth, j'avais envie de faire du marketing, j'avais envie de comprendre ce que c'était que ce truc-là. Et en fait, quand tu as tant de volonté et que tu fais tellement de choses, il y a un moment donné, on peut appeler ça de la chance, on peut appeler ça, mais à un moment, ça tombe. Il y a des opportunités et après, c'est à nous de les saisir. Notamment, Mobile Growth, bizarrement, la personne avec qui je co-organisais, c'est le fondateur de Mangrove. Et à l'époque, il n'avait pas fondé Mangrove. Donc, je le connaissais, on s'est rencontrés là, à ce moment-là. Et je ne l'ai pas rencontré parce que je lui ai envoyé un email. Je l'ai rencontré parce que j'ai demandé à la boîte américaine qui voulait organiser ces événements à Paris, qui s'appelle Branch et qui existe toujours. J'ai vu que vous cherchez du monde pour faire les meet-up. Moi, je suis chaud. Et ils m'ont dit, c'est cool, mais il y a déjà une autre personne qui est aussi intéressée. Je vous mets en contact et gérez votre délire. Et cette autre personne, c'était Adrien. Donc, je pense qu'il y a vraiment un truc de faux. La chance, ça n'existe pas vraiment. Et ça, elle se tente avant. Enfin, bizarrement, les gens qui ont de la chance, c'est toujours les mêmes patterns. C'est, t'as fait beaucoup de choses avant. Et à un moment donné, il y a un truc qui tombe. Mais il y a plein d'autres trucs, plein de fois où c'est pas tombé. Genre, j'ai dû faire une centaine de rendez-vous avec des entrepreneurs qui n'ont servi à rien. Voilà, faut avoir envie de le faire.
Donc, ici, je pense que la leçon, c'est vraiment de comprendre comment est-ce que tu peux te rendre utile, quoi. Et si t'es utile, les gens ont envie de s'associer avec toi et de te garder dans un coin et de te mettre sur des trucs. Moi, j'ai vécu, j'ai vraiment commencé dans le milieu de l'infoprenariat et surtout, j'ai commencé dans le fin fond de l'infoprenariat, c'est-à-dire la niche de la séduction, tu vois. Et au départ, t'envoies des emails dans ce milieu, personne te répond. Personne te répond. Tu parles dans le désert complet. Et à force d'envoyer des emails à des gens et de demander à faire des articles invités, j'ai trouvé un gars sur un site qui était un coach qui a accepté que je fasse des articles invités. Et je suis devenu un peu son petit gars qui allait faire des articles toutes les semaines, qui fait des articles gratuitement pour avoir récupéré des abonnés sur mon site, tu vois, mettre un lien à la fin. Mais toutes les semaines, j'écrivais un article sur son site. J'écrivais plus d'articles sur son site que lui n'en écrivait. Mais il s'avère que ce gars-là,
c'est ça.
Il connaissait tout le monde. Comme c'est un milieu, il connaît tout le monde. Et tout d'un coup, les gens... littéralement, qui ne répondait pas à mes emails, il me disait « viens, on fait tel événement, on fait tel truc », et je commençais à arriver. Alors après, là, qu'est-ce que j'avais? J'étais devenu obsédé par le copywriting. À une époque où tout le monde faisait des pages de vente, mais je pouvais t'en parler, si tu veux, avec un niveau de détail, un niveau de précision, et je pouvais te parler de tous les nouveaux trucs qui avaient été faits. « T'as vu tel mec aux US, il a fait ça, c'est vachement cool, etc. » Je pouvais analyser tous les trucs de marketing. Et donc, du coup, j'étais devenu un petit gars un peu jeune, un peu marrant, un peu utile, qui avait la niaque, qui parlait, qui avait de la motivation.
Avec une volonté de ouf, gratuit, ouais. Qui avait la niaque, exactement.
Et tu pouvais lui parler, tu pouvais lui demander des conseils.
Exactement. Et aujourd'hui, quand tu verrais un petit gars de la même manière, qu'est-ce que tu as envie de faire? Mais tu as envie de bosser avec lui. Mais dans ton équipe, c'est presque ça, j'imagine.
C'est ça.
Que les
gens que j'ai recrutés,
avec qui tu travailles.
Mais même pas que, tu vois, par exemple, on connaît tous les deux un gars qui s'appelle Alexis Manchla, qui a un podcast, etc. C'est un gars. Je l'ai rencontré parce qu'il est venu à un de mes dîners que j'organisais pour mes abonnés. Il est venu et en gros, On a discuté un petit peu, etc. Et il m'envoie un email 2 semaines après en me disant bah, « Tiens, tu m'as recommandé un livre. » J'ai lu le livre et c'est super, ça m'a appris plein de choses, etc. Et j'ai fait « Ok, bah, vas-y, on va faire un podcast ensemble. T'es chaud ? On va faire un podcast ensemble, on va résumer ce livre. Prépare-moi un résumé du livre et on va le faire ensemble. » Donc, on l'a fait et en gros, il est passé sur mon podcast, tu vois, alors qu'il était juste étudiant. Mais il avait suivi les conseils, il les avait appliqués, il m'avait fait un follow-up et il avait trouvé un moyen de se rendre utile. Et maintenant, bah voilà, il a son business de freelance, il a fait sa carrière, il a son podcast, il est en train d'écrire un livre chez Erol, tu vois. Et c'est un gars où tu te dis, à l'époque, il partait de zéro, mais il avait quand même ce petit truc, cette petite niaque, cette petite manière de réfléchir et de trouver les trucs. Et pour moi, simplement, le fait qu'une personne que tu rencontres soit capable de te faire un follow-up un certain nombre de semaines après pour te dire « j'ai implémenté tes conseils », c'est vachement rare. C'est vachement rare. Il y a quelques personnes qui arrivent et qui le font. Généralement, ils sont allés assez loin. Et aujourd'hui, il y a quelques personnes que je suis. Moi, j'ai toujours un nombre de personnes que je traque parce que je suis curieux et j'ai un peu un espèce de pari que j'ai. Bah, ce gars-là, pour moi, ce qu'il fait, c'est pas ouf, mais je sais qu'il va trouver un truc parce qu'il a le bon mindset. Tu vois. Donc, des personnes comme ça que je suis et que je regarde ce qu'ils font en me disant « je suis sûr, un jour, j'aurais prédit qu'ils avaient fait un truc intéressant » ou alors « un jour, je vais les recruter ». Il y a aussi un gars, la dernière personne que j'ai recruté dans mon équipe, c'était un mec où j'avais fait ça. Il faisait une chaîne YouTube qui était bien foutue, mais qui marchait pas de masse. Mais par contre, il faisait vraiment une vidéo tous les jours, tu vois, grosse régularité, etc. Je me dis, bah, tiens, ce gars-là, un jour, si j'ai une opportunité, je lui propose directement, tu vois. Et j'ai recruté ce gars et il fait un job fantastique dans l'équipe. Et il y a vraiment, je pense, même dans ces milieux assez hermétiques, il faut que tu comprennes comment percer dedans. Il faut effectivement que tu comprennes que tout le monde ne sera pas une opportunité pour toi et qu'il y aura peut-être une personne qui peut être ton point d'entrée. Pour moi, il y avait une personne, un individu qui s'appelle Consti, qui était mon point d'entrée dans ce milieu et qui m'a ouvert la porte et qui ensuite, tous les pontes un petit peu du milieu se sont mis à me parler parce que lui m'avait ouvert la porte. Tu vois. Et donc du coup, bah, il a fallu que je contacte tout le monde pour trouver une personne. Mais il faut que tu comprennes quel est le type de qualité chez toi que tu peux démontrer qui va catcher l'attention de cette personne. Et ce que tu donnes sur voilà, la passion, la volonté de se rendre utile, la volonté d'organiser, je pense que c'est un truc qui est vachement sous-estimé, la volonté d'organiser. Il y a un peu, moi je me souviens d'avoir des groupes d'amis où en fait il y avait une personne qui organisait tout quoi. Et le groupe d'amis ne fonctionnait que sur le dos d'une personne qui organisait tout. Et sans cette personne, ça n'existait pas. Bah, comme tu as pu peut-être le voir avec Mangrove, la volonté du gars qui rassemblait toutes ces personnes, il apporte beaucoup de valeur. Et tu peux aussi être cette personne par exemple qui rassemble, qui est un peu la plaque tournante, qui va organiser l'événement. Et même si tu es un peu le plus petit poisson de l'événement ou le plus petit poisson du groupe, tu crées de la valeur en connectant les gens. Enfin, il y a plein de manières différentes dont tu peux apporter de la valeur selon tes forces et tes faiblesses qui peuvent, en gros, te dire comment est-ce que je mets le pied dans la porte, dans un événement, dans une personne, dans un contenu et qui peut me permettre ensuite de me faufiler petit à petit. Une fois que tu es dedans, tu es dedans. Quoi. Une fois que tu es dedans, c'est relativement facile d'avoir accès à différentes personnes. C'est aussi pour ça que ces milieux ils sont fermés parce qu'à l'intérieur, tout le monde se parle et tout le monde est assez accessible les uns aux autres. Ce qui fait que si tu es ouvert à tout le monde, bah, d'un coup, tu es sursollicité. Donc, il y a une vraie différence entre est-ce que tu connais des gens dans le milieu, est-ce que tu es déjà connecté avec des gens dans le milieu et si oui, je te parle et sinon, bah, désolé, j'ai pas le temps.
Exactement.
Pour terminer sur ce sujet, avant de passer aux questions finales, je voulais revenir sur cette dichotomie entre, disons, qu'est-ce que c'est qu'être un entrepreneur et cette vision très différente d'être un entrepreneur dans le milieu de la startup et de lever de l'argent et de la tech et le milieu de l'infoprenariat et de faire des vidéos et de faire du contenu, etc. Comme toi, tu es un petit peu entre les deux. Je voulais savoir si cette dichotomie et cette différence que moi, je perçois, est-ce que toi aussi, tu la perçois et tu penses que c'est vraiment deux milieux qui sont stressés pas avec des langages différents? Et si oui, qu'est-ce que tu vois comme étant les principales différences entre ces deux milieux et peut-être ce que le milieu plus de l'infoprenariat et de la création de contenu a à apprendre de ce milieu de la startup. Et par exemple, toi, qu'est-ce que tu as tiré de ce milieu de la startup et des techniques de growth pour monter ton podcast et pour monter tes formations?
Je pense que fondamentalement, les deux milieux sont assez proches parce que c'est des entrepreneurs qui essayent d'être efficients. Ce qui va radicalement être différent, je pense que c'est l'ambition. L'ambition d'une startup, c'est de devenir mondial. Donc, c'est complètement mégalo. C'est de se dire, je suis prêt à tout donner pendant 10 ans et d'être le plus gros de la place. Moi, je veux peser 1 milliard. Alors qu'en infoprenariat ou ce que j'appellerais en PME startupisé ou un startup PMEisé, un peu comme Buffer, le but, c'est pas d'être le premier mondial. C'est juste de dire, bon, moi, j'ai de l'ambition, je vais faire une boîte de 20, 30, 80 personnes et je serai déjà très heureux. Donc, je pense qu'il y a ce truc-là. Est-ce que je suis un mégalo? Est-ce que je veux prendre tout un marché très, très vite? Ou est-ce que mon but, c'est avant tout d'apporter de la valeur à mon audience aussi grosse ou petite qu'elle soit, continuer là-dessus et continuer à être un espèce d'artisan. C'est la différence entre ce que je vais être une multinationale ou ce que je vais être un artisan ébéniste qui fait des meubles de super qualité versus je vais être IKEA.
Donc le pendant de cette ambition, c'est aussi le risque. Parce que si tu pars du principe que tu dois faire 1 milliard et être mondial, tu dois prendre tous les risques, tu dois cramer tout l'argent et tu dois peut-être prendre le risque de ne pas être rentable et de lever de l'argent et de tout mettre dessus parce que c'est soit t'es gros, soit tes dettes, plus ou moins.
Exactement. Exactement. Le risque est énorme, mais après, un peu comme dans toutes ces matrices, la récompense est aussi énorme. Hein. Quand on met une boîte en bourse, c'est clair que là, il suffit de regarder les 10 plus grosses valorisations boursières aujourd'hui, il y en a 5 ou 7 où c'est des boîtes technologiques. Donc en vrai, il y a un marché. Pour moi, c'est un sprint slash marathon où il y a beaucoup de gens qui ont envie d'essayer. Est-ce que c'est sain? C'est une autre question. Tu vois, c'est clairement pas de la croissance saine. C'est comparé à un business qui va aller plus moins rapidement. Et après, au niveau de... Donc ça, pour moi, il y a vraiment une différence fondamentale de l'ambition et après, l'état d'esprit reste un peu le même. C'est juste comment est-ce qu'on peut être hyper efficient sur ce qu'on fait. Parce que le montant travaillé, à mon avis, est à peu près le même. C'est juste qu'il y en a qui vont avoir du cash à cramer versus d'autres qui n'en ont pas à cramer. Il y en a qui vont avoir un marché énorme à les prendre versus un autre qui est déjà très bien avec ce qu'il a.
Ouais. On pourrait dire peut-être que la différence, elle se porte vraiment au niveau de quelle est ta vision du succès, quelle est ton image du succès.
Complètement.
En caricaturant à 2000% la vision du succès de l'infopreneur et compagnie, c'est Tim Ferriss, la semaine de 4 heures, etc. En caricaturant à 2000%, parce que je sais qu'il n'a pas dit que tu allais travailler que 4 heures. Et la vision du succès du start-upper, c'est Elon Musk, c'est changer le monde et c'est
Exactement.
Aller sur Mars.
Et soi-disant passant, le Tim Ferriss, il n'a jamais bossé 4 heures. Il a toujours bossé 80 heures par semaine.
Non, il a jamais dit qu'il bossait 4 heures non plus.
Ouais.
C'est juste le titre. C'est pas non plus le sujet. Mais bon, après, si on comprend bien l'image et on comprend bien l'idée du lifestyle, et en gros, c'est de dire, moi, j'en ai assez, je m'arrête.
Exactement. C'est work-life balance. C'est équilibre vie perso, vie pro. Comme dans Mangrove, tu vois, c'était que des gens de la tech, mais qui ont dit, il y en a marre, on n'est pas là pour bosser 80 heures juste pour faire un espèce de produit digital, oui, qui apporte de la valeur, mais alors, en fait où est-ce que moi, je suis là-dedans? Est-ce que j'ai du temps pour aller prendre soin de moi, pour essayer de réfléchir, d'écrire? En fait, c'est pas le montant de travail restera le même. C'est qu'est-ce que je vais avoir produit, je pense, in fine. Est-ce que mon but, c'est d'avoir 1000 personnes dans ma boîte? Ou est-ce que déjà, si j'ai 50 personnes ou 20 personnes hyper heureuses, donc je suis hyper satisfait, et à côté j'ai du temps, plus de temps pour ma famille, pour faire un side project, faire du yoga, j'en sais rien, aller faire un vipassana. En fait, ça, est-ce qu'on achète notre temps pour faire d'autres choses, ou est-ce que le but, et comme tu dis, la définition de notre succès, c'est de faire le truc le plus gros possible?
Toi, tu te considères être de quel côté de cette dichotomie aujourd'hui?
Eh ben, je pense que je suis moi-même scindé en deux, littéralement. D'un côté, il y a une partie de Gabriel qui est prêt à aller tout prendre, le marché européen sur la formation de PME et de start-up, sur tout ce qui est les compétences digitales et surtout les compétences business digitales. Il y a un énorme marché. Et de l'autre, Gabriel Mangrove plus Chill qui dit non, mais c'est pas ça le but de la vie. Moi, j'ai aussi envie d'écrire un livre, j'ai aussi envie d'avoir du temps. En fait, j'ai aussi envie de faire juste une belle boîte remote où on sera 20, 30, 40 et en fait, on sera déjà hyper heureux, on aura un super marché, on a une super brand et je continue de faire ce qui me fait plaisir. Moi, ce qui me fait kiffer, là où je prends du plaisir, c'est là, c'est quand on discute, c'est de faire des podcasts, c'est d'énormément apprendre et d'essayer d'en retransmettre un maximum. Et tu vois, c'est de prendre, mais à la fin de ma vie, j'en aurai plus donné que pris. Et ça, c'est sûr que plus on avait un gros modèle de boîte, moins il y a de temps pour faire ce genre de production. En fait, la fin, ton temps, c'est de la finance, c'est d'aller racheter des boîtes. En fait, c'est des comités exécutifs, des codir qui n'en finissent pas. Et que finalement, ce qui te faisait kiffer, donc de faire des vidéos, par exemple, de faire des podcasts, d'aller parler à des gens, de rencontrer des gens, tu ne le fais plus du tout. Et là, c'est là où il faut, je pense, se poser des questions, ou même se poser des questions avant ça.
Effectivement. Et c'est vrai qu'il y a une vraie... Il y a une vraie séparation entre les deux, quoi. Ils se mixent pas tant. C'est-à-dire que tu peux aller à une conférence. Moi, je vais à une conférence ici à Bangkok avec des entrepreneurs web. Donc, c'est très peu de formation, mais c'est beaucoup d'agences, c'est beaucoup de consultants et c'est beaucoup, beaucoup d'e-commerce, notamment, qui vont être là. Et là-dedans, il y aura jamais un seul start-upper, tu vois. C'est vraiment, les deux sont totalement séparés. Et de la même manière, même si j'ai passé moins de temps, j'imagine que tu vas dans ces événements start-up. Et tu n'auras aucun gars qui est là en te disant tiens, moi, je fais mon e-commerce, je source des produits en Chine et puis on fait 150 000 euros et c'est cool. Tu vois. Et c'est drôle de voir qu'ils sont tellement proches sur 9 éléments sur 10. Il y en a un vraiment qui les sépare, mais cet élément va être fondateur en termes d'identité et fait qu'au final, c'est difficile de s'identifier l'un à l'autre. Et du coup, la perception que les gens dans le domaine du business en ligne, lifestyle, etc. vont avoir, c'est que les start-upers sont fous et sont prêts à tout sacrifier et comprennent pas que le vrai but de la vie, c'est pas juste ça, parce que à quoi ça sert de monter un business pour être à la merci de tes investisseurs et bosser comme un fou pour un truc où au final, je veux dire, t'aurais eu moins d'argent, t'aurais été aussi heureux. Et d'un autre côté, les start-upers peuvent se dire, bah ouais, il est bien mignon ton lifestyle business, mais c'est quoi ton impact, c'est quoi ton changement dans le monde, est-ce que les gens vont se souvenir de toi quand tu seras mort? Ce qui fait que moi, ça m'intéresse presque d'un point de vue, tu vois, de la sociologie, de comprendre que deux groupes qui peuvent être aussi proches peuvent en fait être séparés par une valeur fondamentale qui fait qu'ils ne se parlent pas tant qu'on pourrait le croire au final.
Eh bien, la réponse, je pense qu'elle a été mangrove à un certain moment. Il n'y avait pas d'infopreneur, mais il y avait cet état d'esprit. Genre, non, les gars, l'impact mondial, ça ne sert pas finalement à grand-chose. Comme tu dis, le risque est énorme, il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus, et qu'au final, on est aussi là pour kiffer. Donc oui, avoir de l'impact, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir de l'impact et en fait kiffer aussi? Et je pense que c'est le plus complexe, et aujourd'hui encore, c'est essayer de trouver cette balance. Et je pense que la vie nous apporte des réponses aussi. Demain, imaginons, je vais lever des fonds, et il y a des gens qui me disent « Ok, en fait, c'est incroyable ce que vous êtes en train de faire, on vous donne 2 millions, est-ce que tu les prends ou pas ?» Et c'est là, en fait, où ça va, je pense... changer radicalement la suite de ta vie et il faut prendre la bonne décision.
Parce que l'idée, c'est que si tu les prends, tu viens de t'engager auprès d'investisseurs, de dire je vais te faire un retour sur investissement, je vais éclater le truc. Donc tu ne peux plus Exactement. Maintenant te dire je suis là pour faire du lifestyle et finalement j'ai envie de faire. Tu viens de prendre un engagement auprès de quelqu'un et cet engagement, c'est de maximiser son retour sur investissement. Et c'est pour ça en fait qu'il y a une telle dichotomie, c'est-à-dire que l'entre-deux, il existe, mais il est assez rare. Je pense que notamment une boîte comme Basecamp aux États-Unis qui crée un logiciel de gestion d'équipe, qui ont levé un tout petit peu d'argent auprès notamment de Jeff Bezos, qui en a absolument rien à foutre d'eux, parce qu'il est beaucoup plus gros, il a d'autres chats à fouetter, mais finalement, ils ont vraiment su concilier ce truc avec une grosse échelle, mais c'est un équilibre qui est très, 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 très fragile. Quoi.
C'est ça, la question, encore une fois, c'est qu'on nous regarde à des échelles de temps, mais tellement réduites qu'en fait, on n'en sait rien. C'est que ouais. Buffer, comme Basecamp, pour moi, c'est des modèles de réussite. Je t'avoue que pour moi, c'est vraiment ça que je vise. C'est de dire, c'est quand même des très belles boîtes. Ils sont entre 50 et 100, voire un peu plus. Et ils sont en remote. Ça se voit que...
C'est des chiffres d'affaires à combien sur ces boîtes? T'as un ordre d'idée?
Sur Buffer, ouais. Buffer, en fait, c'est ça qui est extraordinaire. C'est les premiers à avoir aussi cette culture hyper transparente. Si tu as Buffer chiffre d'affaires, ils ont un dashboard en ligne. Tu vois en temps réel, ils ont fait combien? Je crois que là, en ce moment, ils sont à 15 millions d'ARR, donc d'annual recurring revenue. Ils font 15 millions par an aujourd'hui. Je suis peut-être même plus, ça fait un moment que je ne suis pas allé. Tu as le nombre d'employés, tu as des trucs assez extraordinaires. Et ça, je trouve que c'est une culture de boîte incroyable. Il faut suivre DHH et Jason Fried sur Twitter, parce qu'on voit aussi qu'ils ont des cultures. Ils mettent des énormes taquets à la tech, justement, à tous ces gens qui veulent faire des énormes boîtes, aux VC. Et je pense que c'est un peu le juste milieu. Comme tu dis, ils ont levé un petit peu au début, puis après, ils ont racheté leurs investisseurs parce qu'ils ont envie de faire ce qu'ils ont envie de faire. T'en as un qui a envie de gagner les 24 heures du Mans, t'as l'autre qui a écrit un livre, et voilà. La bonne question, je pense, pour nous, c'est la suite, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire, et en fait, faut choisir ses problèmes. Je pense dans la vie, les gens pensent trop, surtout quand ils se lancent, et qui, je pense, écoutent des discours comme les nôtres à la belle vie. Tu entends mangrove dans les quatre coins du monde avec des gens brillants. Tu passes de tu n'as jamais fait de freelance à 700 euros de la journée. Enfin, en fait, c'est vraiment une vie extraordinaire. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est l'inverse. C'est que dans la vie, on choisit ses problèmes. C'est le fait d'être loin des gens. C'est le fait de galérer. C'est le fait de travailler parfois 7 jours sur 7. C'est le fait, en fait, d'avoir énormément d'incertitudes. Moi, ça fait 4 semaines que je travaille 7 jours sur 7 parce qu'avec la crise du Covid, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, notamment sur le marché de la formation en ligne. Je pense que tu l'as vu. Toutes les agences se sont mises à faire des formations en ligne. Tout le monde a... Enfin, en fait, il y a une concurrence extraordinaire qui s'est créée. Et ça, est-ce que tu as envie de perdre tes cheveux pour ça? Et la vérité, elle est aussi là. C'est on choisit ses problèmes dans la vie. Donc, est-ce que tu as envie de choisir les problèmes qui sont incombés à la levée? C'est-à-dire, tu lèves 2 millions, il va falloir que tu enlèves 10 un an et demi après pour accomplir cette vision et prendre un gros marché. Ou est-ce que tu préfères avoir le problème de ne pas lever, mais d'aller avancer beaucoup moins vite, de peut-être pas bosser avec les gens aussi brillants que tu aimerais bosser, de peut-être pas arriver à ton ambition, à ta vision? C'est ça, je pense, la bonne question.
Sur ce, Gabriel, il y a trois questions que je pose à tout le monde avant de terminer ces épisodes. Et la première question, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent ?
Livre business ou livre comment ?
En général. Ça peut pas obligé d'être un livre business.
Alors, j'aime beaucoup, beaucoup Love is the New Killer App. Je l'ai lu il y a environ 4-5 ans, je pense. Ça a été écrit par l'ancien DG ou le numéro 2 de Yahoo, qui a un parcours extraordinaire, puisque lui, à la base, il avait un groupe de rock. Donc, il me semble que c'est Love is the Killer App, quelque chose dans le genre. Et c'est extraordinaire, parce que donc, on parle d'un mec qui n'est pas du tout dans la tech, qui avait un groupe de rock et qui a décidé et qui montre dans son parcours comment est-ce qu'il est devenu numéro 2 de Yahoo. Donc, je vous recommande ce livre à 200%.
Top. J'avais jamais entendu ce livre, donc je vais le checker.
Ouais, j'ai essayé d'en choisir un peu moins bateau que toutes les autres.
Ouais, il est bien. Il sort carrément des sentiers battus, donc de Tim Sanders. Deuxième question, Gabriel. Si tu pouvais revenir en arrière et voir le Gabriel quand tu avais 20 ans, quel conseil est-ce que ce mec-là a besoin d'entendre ?
Le Gabriel d'il y a 20 ans, aujourd'hui, je lui dirais...
Ouais, quand j'avais 20 ans, plutôt.
Donc aujourd'hui, j'en ai 27, bientôt 28.
J'avais 20 ans, c'était... Continue à jouer
alors,
à Pokémon,
jouer
mon
à console,
gars.
Le Gabriel de 20 ans, je lui dirais... n'aie pas peur. C'est pas parce que tu n'as pas fait de grandes études, de grandes écoles, que tu vaux moins que ceux qui l'ont fait. C'est ça que je dirais.
Ok. Et finalement, est-ce qu'il y a un proverbe ou une citation qui te vient souvent à l'esprit ?
Ah ouais, tous les jours. Et je pense que ça va peut-être résumer ce qu'on raconte depuis tout à l'heure sur est-ce qu'on lève, est-ce qu'on lève pas, c'est quoi le but de la vie, c'est quoi le succès ou l'ambition d'une vie. Je pense que c'est ce qu'il y a d'important dans la vie, c'est pas ce que tu fais, c'est avec qui tu le fais. Et c'est une des raisons pourquoi je travaille avec mes frères dans la boîte. Et je pense que c'est une bonne raison de faire beaucoup de choses. On peut penser que le B2B, c'est pas très amusant. On pense plein de choses qui sont pas très fun. Mais je pense qu'au fin de la fin de la vie, ce qui est important, c'est pas vraiment ce que tu as fait, c'est surtout aussi avec qui tu l'as fait.
Sur ces mots de sagesse, Gabriel, on va se quitter. Merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de t'avoir enfin sur Marketing Mania.
Merci à toi. C'était très cool.
À bientôt.
Ciao.
Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Un petit rappel, si vous avez une question à me poser, que vous aimeriez avoir la réponse sur cette antenne, je vais la semaine prochaine enregistrer une FAQ spéciale pour les auditeurs de Marketing Mania et du podcast Marketing Mania. Pour poser votre question, vous pouvez envoyer votre question dans le corps d'un email ou, et c'est mieux, dans un fichier son de moins de 60 secondes en pièce jointe d'un email. Et pour envoyer toutes ces questions, l'adresse email, c'est faq@marketingmania.fr. Vous pouvez renvoyer vos questions si vous avez déjà envoyé pour une FAQ passée. Je vais récupérer toutes les questions dans les prochains jours. Je vais faire le tri et vous aurez l'épisode FAQ spécial la semaine prochaine, mardi prochain, dans votre flux podcast. Si vous avez une question pour moi, c'est faq@marketingmania.fr et je vous dis à la semaine prochaine.